matin, le 5-7.
Sébastien Krebs.
Écoutez le monde changer.
Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur Europe 1. Il est presque 5h. Ravi de vous retrouver avec toute l'équipe du 5-7 qui s'installe autour de moi. Bonjour Ambline Roche.
Bonjour.
Bonjour Hélène Terzian.
Bonjour.
Vous allez bien ?
Oui,
bien,
c'est vendredi.
Vous, c'est vendredi.
C'est vendredi. Bon, on va se mettre dans l'ambiance de Noël. Vendredi 18 décembre. Oui, vous allez l'avoir dans la tête toute la journée et tout le week-end. Alors, c'est le tube de Noël par excellence. Hein. Oui. Mariah Carey, bien sûr. On avait envie de finir cette semaine avec Mariah Carey, Omblin. Toujours numéro 1, cette chanson, tous les ans, indémodable.
Ouais, depuis 30 ans, les guirlandes, les pulls avec un renne et des flocons tricotés, c'est obligatoire, comme Mariah Carey, tous les 25 décembre. Donc, on va vous l'offrir aujourd'hui, un peu en avance.
L'histoire derrière ce tube incroyable, 60 millions de dollars, c'est ce qu'a rapporté cette chanson
à Mariah Carey.
Jusqu'à, c'est pas fini.
Jusqu'à l'année dernière, ce sont les chiffres de l'an dernier. Ouais.
Hélène, vous avez mis l'habit de lumière, hein, ça brille
ben
ce matin.
Oui, on est vendredi, c'est les fêtes bientôt, on en profite.
Qu'est-ce que vous avez repéré ce matin?
Alors, c'est un peu moins drôle que Mariah Carey, c'est une publicité de Monoprix, une publicité en ligne, une publicité pour des cosmétiques incarnée par une mannequin noire. Et cette publicité, elle déclenche un flot de commentaires racistes sur Facebook. C'est absolument, c'est nauséabond, je vous en parlerai dans ma chronique réseaux
sociaux. Bravo, vous avez plombé l'ambiance, je vous félicite.
Je suis désolée, mais il faut en parler.
Vous revenez à 5h45, à tout à l'heure. Nous revenons bien sûr ce matin très largement sur cette nouvelle qui a secoué le sommet de l'État. Le président positif au Covid, on en sait un peu plus ce matin sur ses symptômes.
Il a des symptômes réels de la maladie, une toux et une fatigue importante.
Alors aucune inquiétude, hein. Symptômes grippaux dit-on à l'Élysée, isolement pour le président à la lanterne et volonté affichée de transparence. On sait combien la santé des présidents est un sujet sensible. On va en parler avec mon invité tout à l'heure à 6h40, Denis de Montpion. Il a écrit Le Dernier Tabou sur ce sujet. D'ici là, la parole aux parents d'élèves en ce jour de vacances scolaires et l'inquiétude qui monte notamment sur le bac avec les cours en distanciel. Certains lycéens ont pris du retard. Le président de la FCPE demande à repousser les épreuves qui sont prévues en mars, les toutes premières épreuves du nouveau bac. Rodrigo Arenas sera tout à l'heure avec nous à 5h40. Et puis mon invité inattendu va encore vous surprendre tout à l'heure. C'est un ancien nageur, ancien champion olympique, dont on va découvrir la passion pour l'aviation, un rêve de gosse qu'il a réalisé puisqu'il pilote aujourd'hui des avions. Voilà pour le programme ce matin, je vous souhaite la bienvenue et je salue Laurent Cabrol. Bonjour Laurent.
Eh bien bonjour à tous et bonjour Sébastien. C'est une journée qui s'annonce, ma foi, pas mal du tout hein, sur la plupart des régions. Alors ce matin, certes, un petit peu de pluie sur la Manche, mais ça va, elles vont partir, hein, nous aurons des éclaircies. Et malheureusement, nous allons conserver du mauvais temps sur le bassin méditerranéen, avec toujours ces pluies cévenoles. On en reparlera, car elles deviennent sévères. Les températures maximales, entre 10 et 15 degrés.
On en reparle juste avant 5h30, à tout à l'heure.
Europe Matin, le 5-7. Sébastien Krebs.
Bon réveil avec Europe 1, tout de suite votre premier journal de cette matinale. Bonjour François Geffrier.
Bonjour Sébastien, bonjour à tous.
Il est 5h.
Malgré les contraintes liées au moment où par le truchement de cette visio, je suis heureux de pouvoir honorer cet engagement.
Le truchement d'une visioconférence, visiblement la maladie ne lui a pas fait perdre ce vocabulaire bien à lui. Emmanuel Macron atteint du Covid, déclenchant l'isolement d'une demi-douzaine de dirigeants étrangers, lui-même est depuis hier soir à la résidence présidentielle de la Lanterne à Versailles. Les lycéens sont en vacances ce soir, mais déjà stressés par les épreuves du bac dans 3 mois à peine, alors que l'année aura été en partie en cours à distance. Et puis, Noël en format réduit, pas plus de 6 à table. D'ailleurs, même les producteurs de chapons se sont adaptés et vendent des spécimens plus petit.
À suivre les sports avec Jérôme Lacroix, notre pressing du matin et puis les doigts dans l'assiette. Nous serons à Rungis à quelques jours de Noël. Bienvenue à tous, 5h01.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Loin des fanfaronnades et du sentiment d'invulnérabilité affiché par un Donald Trump ou un Jair Bolsonaro, on pensait Emmanuel Macron à l'abri du virus, protégé dans ses déplacements internationaux comme lors de ses réunions dans un Élysée aseptisé. La nouvelle hier matin de sa contamination au Covid a surpris. Jean-Rémy Baudot, que sait-on ce matin de l'état de santé du président ?
Eh bien, selon son entourage, Emmanuel Macron souffre d'une toux, d'une importante fatigue ainsi que de fièvre. Un président souffrant à l'isolement, il est arrivé hier soir à Versailles, seul, sans sa femme Brigitte, dans la résidence officielle de la Lanterne. Sur place, entouré d'un staff médical, il pourra à la fois s'isoler et continuer à travailler, indique l'Élysée. Pour lui, les prochains jours vont ressembler à un interminable enchaînement de réunions en visioconférence, évidemment du repos, mais ses collaborateurs ne viendront plus dans son bureau. L'Élysée devrait ainsi vivre sous cloche le temps de l'isolement du président. Reste la question de la contamination du chef de l'État. Il a dû se contaminer en fin de semaine dernière, probablement à Bruxelles lors du Conseil européen, glisse un conseiller à l'Élysée. Emmanuel Macron positif, l'illustration que les gestes barrières ne sont pas toujours suffisants, ou bien que parfois on les oublie. L'entourage du président s'en défend. S'il avait été imprudent, il aurait été contaminé bien plus tôt, affirme une conseillère.
Jean-Rémy Baudeau du service politique d'Europe 1.
Emmanuel Macron qui avait précisé qu'il se ferait vacciner contre le Covid au moment où ça a du sens et où ça correspond à notre stratégie. Voilà ce qu'il avait dit.
Oui, sous-entendu, pas de priorité pour le président par rapport aux résidents des EHPAD qui doivent être les premiers en France à se voir proposer le vaccin à partir de fin décembre. Pour autant, hier, un Français a reçu une injection du produit Pfizer-BioNTech. Il s'agit de Julien Cavana, médecin installé aux États-Unis, vacciné sur son lieu de travail, l'hôpital Massachusetts General à Boston. Il a même filmé la scène et ce matin, il nous raconte.
Ça donne l'impression de faire partie de l'histoire de l'humanité, l'histoire de la science. J'avais mon rendez-vous à 8h45. Vous arrivez, c'est le musée de l'hôpital général du Massachusetts qui était transformé en centre de vaccination. C'est une toute petite injection, c'est 0,3 ml. C'est une toute petite quantité de liquide. Moi, ça m'a rendu très très ému et les infirmières qui administraient ces vaccins l'étaient aussi. Ma première pensée, elle a été pour tous les patients, tous les collègues que j'ai perdus dans cette pandémie et qui malheureusement ne peuvent pas connaître ce moment aujourd'hui. On a encore des mois de combat, mais on a un énorme moment d'espoir. On sait qu'on est dans la bonne direction avec ce vaccin.
Et bien voilà, un moment d'espoir signé Julien Cavana, joint pour Europe 1 par Caroline Bonnery.
Alors vous l'avez compris, c'est jour de vacances scolaires aujourd'hui pour beaucoup d'élèves, pour tous les élèves. Il y a des élèves quand même en classe de terminale qui commencent à stresser.
Ben oui, il faut dire que depuis plus d'un mois, dans les lycées, l'enseignement se fait en partie de nouveau à distance. Mais les premières épreuves du bac approchent, ce sera dès la mi-mars et tous les élèves ne sont clairement pas dans les mêmes conditions pour le préparer. Reportage de Virginie Riva pour Europe 1.
Dans son lycée, situé dans le 11e arrondissement de Paris, Manel a cours tous les jours, mais uniquement par demi-journée. Les après-midi où elle est chez elle, elle a surtout des devoirs à faire, pas de cours en visio. Impossible dans ces conditions de voir tout le programme, particulièrement en spécialité maths, l'une des deux matières qu'elle a choisies.
Thématique, mon professeur m'a clairement dit que donc il y a peut-être des chapitres qu'on devra faire tout seul à la maison avant l'épreuve. Et je trouve que c'est inadmissible de faire un chapitre tout seul qu'on n'a jamais vu avant.
Pour éviter justement de tomber sur une impasse et tenir compte de la pandémie, il y aura deux sujets proposés dans chaque matière choisie pour le bac. Reste une inégalité majeure, tous les élèves n'avancent pas de la même manière selon les lycées. Alexia, elle, est plutôt sereine. Élève en terminale dans un lycée du 8e arrondissement parisien, ses cours de spécialité ont tous été maintenus en présentiel.
Je me sens plutôt bien parce que c'est vrai qu'on est quand même assez préparé vu qu'on a quand même 6 heures par spécialité. En plus, on a eu un bac blanc là les deux derniers jours. Donc on a déjà pu avoir une idée de comment ça va se passer.
Des notes aux épreuves de spécialité qui seront prises en compte dans la sélection pour Parcoursup.
Et Virginie Riva et le président de la FCPE, l'association de parents d'élèves, sera mon invité tout à l'heure à 5h40, Rodrigo Arenas.
C'est un sujet qui vous concerne directement. Si vous rêvez d'un achat de logement, un appartement, une maison, les règles pour obtenir un crédit immobilier vont être assouplies.
Bonjour Élise Dangean.
Bonjour.
On va donc pouvoir emprunter plus facilement.
Et oui, le Haut Conseil à la stabilité financière a revu ses exigences à la baisse sur le taux d'endettement. Il recommande désormais aux banques de ne pas dépasser les 35% contre 33% auparavant. Et ça change tout. Prenez un couple qui gagne 3000 euros net par mois, par exemple, avec un taux à 1,10 sur 20 ans. Eh bien, il va pouvoir emprunter 12 000 euros de plus. Une excellente nouvelle pour les primo-accédants, les plus jeunes, ceux qui ont peu ou pas d'épargne, selon Maëlle Barnier, porte-parole de meilleurtaux.com.
On avait aujourd'hui des primo-accédants qui étaient sortis du marché, y compris des jeunes fonctionnaires. Moi, j'ai vu des dossiers être arrêtés parce qu'ils avaient pu être à 34,5% d'endettement et plus 33%, alors qu'ils étaient tous les deux sur une totale stabilité de l'emploi. Donc, on observait, nous, depuis quelques mois, vraiment qu'on avait des emprunts qui étaient accordés à des gens qui avaient de l'argent, qui avaient des revenus aisés et de l'épargne. Donc plutôt les plus âgés, finalement, les 40-45 ans. Mais en revanche, sur les primo-accédants, on sentait réellement réellement que ça coinçait.
Autre changement, la durée de l'emprunt. On va pouvoir aller jusqu'à 27 ans et non plus 25. Très utile pour les gens qui font construire ou qui achètent sur plan.
Élise Dangean du service Économie d'Europe. À quoi ressemblera votre réveillon de Noël et surtout qui sera autour de la table? Vous le savez, le gouvernement recommande de ne pas être plus de 6 adultes. D'où cette petite remarque. Une dinde ou un chapon, ça risque de faire beaucoup pour 6 adultes.
Eh bien, figurez-vous que cette année, les fermiers de Loué ont largement développé la production d'une espèce unique au monde, de taille plus petite. Écoutez ce reportage de François Coulon dans la Sarthe.
C'est un petit chapon blanc rêvé pour les mini-tablés. Les éleveurs de Loué l'ont créé il y a 20 ans. Cette année, il tombe comme Mars en carême. Yves de la Fouchardière, directeur des fermiers de Loué.
C'est une race très particulière, Sussex, qui est sélectionnée spécialement pour son petit format et qui permet d'avoir des chapons qui font 1 kg de moins que le chapon classique. C'est exactement le format de chapon qu'il faut pour une table de 6. C'est chapon parfait pour l'année 2020. Ils ont fait 3 marathons, ces chapons, dans leur vie, un peu plus de 60 km. Les chefs considèrent que c'est la Rolls-Royce du chapon. C'est une exclusivité mondiale, personne n'a cette race nulle part ailleurs. C'est une exclusivité qu'on trouve qu'à Loué.
Cap sur Oupe et Roux-le-Coquet, au nord de la Sarthe, Cédric Landrin se consacre au mini-chapon depuis 10 ans.
Alors là, devant nous, on a 2500 chapons. Il n'y a que des garçons, là. C'est un produit qui est un petit peu plus fin que le gros chapon. On sent qu'il s'est baladé pendant plusieurs mois. Ils sont en plus terminés avec du lait dans l'alimentation. Pour attendrir encore plus la viande, c'est un médecin. Un petit chapon avec une sauce au beurre blanc, c'est pas habituel, mais c'est très bon.
Cette année, les fermiers de Loué se sont adaptés à la crise sanitaire en produisant pour Noël pratiquement 2 fois plus de chapons miniatures que d'ordinaire. Roux-Pérou-le-Coquet, François Coulon, Europe 1.
L'actualité musicale à présent et ce retour d'un éternel jeune homme, toujours aussi rock, Paul McCartney, 78 ans, nous livre un nouvel album.
Ça s'appelle Paul McCartney 3. Le premier volume était sorti en 70, quelques mois après la séparation des Beatles. Le second, 10 ans plus tard, voilà le troisième. Une chose les relie tous. Angèle Châtelier nous présente ce nouvel opus.
C'est le troisième album que Paul McCartney compose entièrement seul. Il fait la basse, la guitare, il chante. Mais depuis la sortie du premier, la musique sur ordinateur est arrivée. Et il s'en amuse, comme en modifiant sa voix, la rendant plus robotique. Sur ses 11 nouvelles chansons, il y en a d'autres, plus pop, à la Beatles. Mais les musiques expérimentales et chansons plus populaires, c'est sa patte, ce que décrypte Dominique Grandfils, auteur de livres sur les Beatles.
McCartney, il sait que les fans les plus classiques ou les plus anciens, ils vont rechercher le côté ballade, mais il est toujours attiré par l'innovation. Un morceau qui s'appelle Deep Deep Feeling, on voit bien qu'il cherche l'expérimentation.
Paul McCartney a enregistré cet album dans sa ferme du Sussex en Angleterre, là où il était confiné au printemps, pour se faire, dit-il, un cadeau à lui-même, sans penser que ses heures passées en studio pour contrer l'ennui deviendraient un album.
Un cadeau pour lui-même, un cadeau pour beaucoup de fans, je pense, sous le sapin, là, dans quelques jours. Le nouveau Paul McCartney. Paul McCartney numéro 3.
Facile à retenir.
18e album solo de Paul McCartney. C'était Angèle Châtelier et François Geffrier pour le journal de 5h. 5h10 sur Europe 1.
Retrouvez le journal des sports avec Winamax. Winamax, les meilleures cotes.
Et bonjour Jérôme Lacroix.
Bonjour Sébastien, bonjour à tous.
À la une de votre journal des sports, le drapeau russe banni des Jeux.
Voici ce qui résonnera sur les podiums des JO d'été de Tokyo l'été prochain et des JO d'hiver de Pékin en 2022. L'hymne olympique et non l'hymne russe sera joué à chaque fois qu'un sportif de nationalité russe remportera une médaille d'or. Le tribunal arbitral du sport a prononcé hier la suspension de la Russie de tous les grands événements sportifs, et ce pour 2 ans, en raison de pratiques répétées de dopage. Alors concrètement, ça veut dire plus aucun symbole russe n'apparaîtra lors des JO, par exemple plus de drapeaux, plus d'hymnes, mais des athlètes, oui, qui concourront sous bannière neutre, la bannière olympique. Ils pourront participer si et seulement si ils n'ont jamais été convaincus de dopage. L'État russe sanctionné donc, mais pas ses sportifs. Ainsi, côté compétition, la concurrence russe sera bien là, à Tokyo l'été prochain notamment. Et il faut s'y préparer, martèle Kevin Rabot, le directeur technique de la gymnastique française.
Je suis extrêmement prudent. On va attendre les modalités concrètes de cette annonce. Les Russes sont des concurrentes directes. On verra s'ils seront à nouveau là, mais on se prépare à les battre dans tous les cas. et je préférais débattre au jeu à la loyale plutôt que sur le tapis vert.
Des propos recueillis par Corinne Boulou et le comité olympique russe se satisfait tout de même ce matin que des sportifs russes puissent participer aux grandes compétitions sous bannière neutre.
Le grand rendez-vous sportif du jour se tient du côté du Danemark.
Herning, à l'ouest du pays, théâtre d'un France-Croatie pour une place en finale de l'Euro féminin de handball. Les Bleus, grandes favorites, championnes d'Europe en titre, face à des Croates novices à ce niveau. Mais surtout, surtout, ne pas succomber au complexe de supériorité, alerte l'une des patronnes de ce groupe France, Grace Zahadi.
C'est vrai que les Croates sont la grosse surprise, je pense, de la compétition. Maintenant, elles ne sont pas arrivées ici par hasard. Donc, on ne va pas faire l'erreur de les sous-estimer. Ce serait une très grosse erreur de faire ça. On va préparer le match comme les autres, avec beaucoup de vidéos et d'analyses. Et on va les étudier à fond.
France-Croatie, demi-finale de l'Euro féminin de handball. Coup d'envoi 18h, finale éventuelle, espérée dimanche, face aux Norvégiennes ou aux Danoises, de formation redoutable.
La Coupe d'Europe de rugby, décidément bien perturbée par l'épidémie de Covid.
Avec un nouveau match annulé, La Rochelle-Bath, qui était prévu demain, en deuxième match du premier tour, des joueurs de l'équipe anglaise pourraient être cas contact ou avoir été contaminés lors d'une précédente rencontre. Deux autres matchs ont déjà été annulés cette semaine, Toulouse-Exeter et Glasgow-Lyon. Ils étaient prévus dimanche pour raisons similaires. Les trois équipes françaises non responsables des annulations devraient avoir match gagné sur tapis vert.
Le chiffre du jour.
15 000. Il a dû pomper 15 000 litres d'eau. Thomas Ruyant, le marin du Vendée Globe, une eau qui avait envahi la soute de son bateau avant-hier soir. Il a réussi à se remettre au sec et à repartir. Ce matin, au classement, il est troisième, Thomas Ruyant. Derrière, Charlie Dalin et Yannick Bestaven, toujours premier. Des hommes de tête entrés dans l'océan Pacifique après avoir franchi l'Australie.
Pardon, comment il a pompé 15 000 litres d'eau?
Il n'a pas
écopé à la main quand même.
Non, deux pompes. Deux pompes à bord.
Il y a des pompes à bord.
Oui, absolument.
Très bien.
Ah bah oui.
Jérôme Lacroix pour les sports, merci.
C'était le journal des sports. Toute l'actu pour bien parier est sur Europe 1 avec Winamax. Winamax, les meilleures cotes. Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
Allez, on revient sur la terre et sur la terre des hippodromes pour découvrir le pari gagnant de Thierry Léger. Bonjour Thierry.
Bonjour Sébastien, il y aura des courses cet après-midi sur l'hippodrome de Vincennes et mon pari gagnant sera le 510 Glamour Queen. Cette jument longtemps ménagée reste sur 3 victoires consécutives, toutes obtenues avec des involtures et comme ses limites actuelles restent à déterminer et qu'elle n'a certainement pas encore les gains en rapport avec ses moyens, elle trouve ici des conditions de course particulièrement favorables pour enchaîner un nouveau succès. Alors notez bien, pour cet après-midi à Vincennes, réunion 1 dans la 5e course, le numéro 10, Glamour Queen.
Thierry Léger, merci et on vous retrouve pour les pronostics du Quintet tout à l'heure dans 20 minutes.
Europe 1.
5h14 sur Europe 1, bienvenue si vous nous rejoignez. Bon réveil, on va ouvrir tranquillement les journaux du matin et vous raconter les trois histoires que nous avons repérées. Omblin, qu'est-ce qui vous a intéressé ce matin?
Savez-vous quel âge a Miss France? Alors je vous parle du concours, évidemment.
Celle qui sera élue demain? Non.
Elle a un siècle.
Le concours a un siècle.
Miss France a 100 ans, la première s'appelait Agnès Souré, ou plutôt Émeraude, car pour le concours, les candidates portaient des noms de fleurs ou de pierres. D'autres histoires, assure.
Miss France qui, pour l'instant, survit au Nouveau Monde.
Oui.
Mais c'est un autre débat. Ouais. Puis on rendra un petit hommage à un monument de la télé qui tourne la page aujourd'hui. Jean-Pierre Pernaut présente son dernier JT de 13h dans quelques heures. A tout de suite sur Europe 1.
Europe 1, Sébastien Krebs.
Il est 5h15 sur Europe 1 et nous allons ouvrir les journaux du matin avec toute l'équipe du 5-7, Omblin Roche et Hélène Terzian autour de moi. On commence par un coup d'œil à vos unes du jour et c'est sans trop de surprise le Covid du président qui fait la une un peu partout. L'Élysée sous le choc dans aujourd'hui en France, branle-bas de Covid à l'Élysée, écrit Libération, la quarantaine du président dans le Figaro ou dans la Dépêche du Midi, le Covid au sommet de l'État dans Sud-Ouest. Nice matin se contente d'un seul mot, touché, avec le visage d'Emmanuel Macron derrière un masque, isolé, un seul mot aussi choisi par la Voix du Nord. 18 000 nouveaux cas, rappelle le Dauphiné libéré, dont Emmanuel Macron. Et le Dauphiné libéré parle d'un effet domino avec ces personnalités cas contact placées à leur tour à l'isolement en France comme en Europe. La Provence titre sur la ruée sur les tests avant Noël et l'Alsace sur la 5G qui s'installe à Mulhouse. Enfin, Ouest-France nous parle de ces commerces de centre-ville qui prennent leur revanche. Les Français restent attachés à leur rue piétonne, écrit le quotidien breton. Et voici les trois histoires du jour, celles qui ont attiré notre attention. Omblin, on commence donc par ce centenaire, le centenaire de Miss France.
Paris Match nous fait remonter le temps jusqu'en 1920. La première n'était pas une Miss France. Non, le nom n'existait pas. Agnès Souret, originaire d'Espelette dans le Pays Basque, a décroché le trophée de la plus belle femme de France. Alors le point commun entre une Miss en 1920, en 1980 ou en 2020, eh bien c'est l'élégance. Et ce qui n'est pas couronné, c'est le sexy. Donc quand Yvonne Livezieux a été élue reine de beauté en 1947, elle était donc élégante, en bikini. Le bikini fait alors son arrivée dans le concours et en bikini, Yvonne Livezieux reste tant bien que mal digne et naturelle lorsqu'elle répond aux questions d'un jury composé de messieurs, tout habillés, hein, c'est ce que nous raconte le magazine. Il faut savoir quand même que ce jury de Miss France discutait des mensurations des candidates jusqu'en 1970, jusqu'à ce qu'elle soit bannie par Geneviève de Fontenay, grande figure du concours. Miss France arrive à la télé sur FR3 en 1986, présentée par Guy Lux. Le jury est composé notamment de Popek, du boxeur Louis Acariès, de l'acteur Bernard Ménès. Ça ne s'invente pas. Une soirée qui n'en finissait pas, raconte Madame de Fontenay, où le champagne coulait à flot. Et cette soirée resté dans les mémoires à cause ou grâce à différents couacs. Sur Europe 1, l'animateur Céleste Prior, qui doit relayer les votes des auditeurs, s'en mêle les pinceaux entre les dauphines et la gagnante et il se trompe. Il se trompe de gagnante.
C'est arrivé plus récemment aussi.
Ouais. Ah ben voilà. Et finalement, ce soir-là, pour cette première à la télé, c'est Miss Alsace, Nathalie Marquet, qui est coiffée du diadème. Nathalie Marquet, madame Jean-Pierre Pernaut, on en parlera. Elle se lancera ensuite dans une carrière de comédienne, car oui, ça peut être ça aussi, Miss France, un accélérateur de carrière. Elle devient actrice, journaliste, animatrice, un ascenseur social pour Miss France en 1973. Isabelle Krumacker qui rêvait de quitter son village. Miss France a 100 ans. Elle ne les fait pas, c'est dans Paris Match.
Concours d'élégance, mais en maillot de bain.
Ça voilà. Donc,
il reste le défilé élégante. En bikini. Hein.
Voilà, bon. C'est ça. C'est pas quand sexy, mais français élégant.
Quand même un aspect physique important, on ne va pas se mentir. On revient d'un mot sur le Covid d'Emmanuel Macron et au-delà de son cas précis, le Figaro revient sur la santé des présidents. Sujet très sensible en cours de l'histoire. Sujet sensible, si ce n'est pas un tabou, hein, écrit le journal, avec des traumatismes. La maladie de Georges Pompidou, maquillée en petite grippe jusqu'à sa mort. Le cancer de la prostate de François Mitterrand, caché pendant 11 ans et avec des bulletins de santé réguliers, mais qui étaient à l'époque mensongers. Le secret médical a toujours prévalu, pardon, y compris au moment de l'AVC, souvenez-vous, de Jacques Chirac, qui avait fortement diminué le président, sans évidemment on le sache, et y compris sous Nicolas Sarkozy, qui avait lui caché une opération d'un phlegmon à la gorge. D'autant que la Constitution, finalement, n'impose rien. Aucun devoir de transparence en matière de santé. Alors que disait Emmanuel Macron de tout cela? En 2017, il était candidat. Il estimait normal que les Français soient informés, mais dans des proportions raisonnables, sans tomber dans le voyeurisme. Hier soir, c'est Gabriel Attal qui nous a raconté à la télévision sur BFM que le président a de la toux, le nez qui coule, il a de la fièvre, sans que ce soit d'une extrême gravité. Et le journal Libération pointe ce matin cette transparence et se demande même si le dernier tabou n'est pas tombé. Alors attention, le communiqué d'hier reste un communiqué, ce n'est pas un bulletin de santé, ça n'a pas été signé par un médecin. Donc voilà. Le sujet reste ultra sensible. On en parlera tout à l'heure avec un spécialiste du sujet qui sera avec nous à 6h40, le journaliste Denis de Montpion, qui est l'auteur d'une enquête intitulée « Le dernier tabou, révélation sur la santé des présidents ». On verra comment il perçoit cette communication aujourd'hui. Hélène, on va terminer avec un visage qui est aussi un peu partout dans la presse ce matin. C'est une page de l'histoire de la télé qui se tourne.
Ah, complètement. Aujourd'hui, je n'ai pas pu, on ne peut pas passer à côté de ça.
Mesdames et messieurs, bonjour.
Jean-Pierre Pernaut, bien sûr, la star de TF1 et mari de Nathalie Marquet, oui, hein, Daisy Homblin, présente aujourd'hui son dernier journal de 13h, son bébé depuis 33 ans, c'est ce qu'il dit. Et à cette occasion, il répond donc aux questions des lecteurs du Parisien aujourd'hui en France. Alors, question d'Aurélia, 40 ans, sur son état d'esprit à quelques heures de présenter son ultime journal. Réponse de Pernaut, est-ce que je serai submergée par l'émotion? Je ne prends pas ma retraite, il le rappelle, mais c'est toujours très émouvant de quitter son boulot et une équipe. Le présentateur qui confie aussi avoir été approché par d'autres chaînes pendant sa carrière. Canal+ et La 5 ont cherché à lui faire présenter le journal sur leur chaîne. Il n'y est pas allé et il ajoute « grand bien m'a pris ». Voilà. Guillaume l'interroge. Quel est son plus grand souvenir? Il cite la chute du mur de Berlin le 11 septembre ou encore l'attentat de Charlie Hebdo qu'il a appris quelques minutes avant l'antenne. Il y a aussi la mort de Johnny Hallyday qu'il adorait. Il faut dire qu'en 24 gouvernements et trois papes, c'est ce qu'il précise. Il a pu en raconter des événements historiques. Claude l'interpelle. Vous donnez souvent votre avis, est-ce vraiment le rôle d'un journaliste? Réponse de Pernaud, je réagis comme si j'étais à la maison. Son secret pour maintenir sa proximité, il la donne à Guillaume, c'est de vivre tout à fait normalement. Je fais les courses, la paperasse et même les poubelles. Jean-Pierre Pernaud qui évoque aussi ses projets. La JPPTV.fr, sorte de Netflix des régions, pour y visionner la gigantesque bibliothèque de reportages tournée et diffusée depuis 33 ans dans son JT.
Et Jean-Pierre Pernaud qui n'abandonne pas pour autant la télévision, parce qu'il présentera une émission hebdomadaire
sur LCI.
Sur la chaîne LCI, qui s'appellera Jean-Pierre et vous, je crois.
J'ai duplex chez les habitants, je crois.
Ah oui.
Oh, à proximité,
en duplex. Bien. Voilà, ça ne déplaira pas à tous ceux qui nous écoutent et qui sont des fidèles de ce journal de 13h qui est donc repris par Marie-Sophie Lacaro. Et on salue Julien Buget qui lui s'installera à la même heure sur France 2. C'était le pressing du jour, il est 5h23.
Sébastien Krebs vous informe sur Europe 1.
Allez, c'est l'heure des doigts dans l'assiette et nous allons sur le marché de Rungis ce matin, pavillon fruits et légumes. Bonjour Boris Richeux.
Bonjour Sébastien.
Vous êtes le patron de l'enseigne Bratini à Rungis. Bon, ça y est, on est dans la dernière ligne droite, là, quelques jours avant Noël. Ça s'agite autour de vous ?
Ah, ça s'agite, c'est le feu. Tout le monde veut avoir des fruits et des légumes pour Noël. Donc c'est une belle agitation. Nous, on aime ça à Rungis, quand il y a du bruit, quand ça bouge. C'est notre métier, c'est notre vie.
Ouais. Gros pic d'activité aussi pour vous ?
Oui, ça va être 15-20% de volume en plus, les fêtes de fin d'année. Après, si on veut les mettre en perspective, c'est pas non plus la saison de printemps et d'été, où là, par rapport à des périodes de fêtes, on va être à plus 20, plus 25% d'activité.
D'accord. Donc, pour vous, la plus grosse période, c'est plus les fruits d'été, bien sûr. Mais on peut se régaler quand même avec des fruits et des légumes pour Noël. Qu'est-ce qu'on peut se prévoir pour le réveillon? Donnez-nous quelques idées.
Alors, il y a deux grands fruits déjà qu'on a l'habitude d'avoir sur nos tables. On a la clémentine. Alors, on la prendra avec feuille ou sans feuille. On l'appellera d'Espagne, du Portugal ou de Grèce. Et on a aussi le litchi. Voilà, le litchi qui est le premier fruit venu de Chine, arrivé en France en 1721, pour la petite histoire. Et il a marqué les grands échanges commerciaux entre la Chine et l'Europe. Donc le litchi, lui, va venir cette année de Maurice ou de La Réunion. Il sera branché, donc dans des grands paquets directement sur sa branche, ou il sera en petit colis, et là, pas débranché.
Très bien, donc le litchi sur les tables, la clémentine, vous n'avez pas cité la Corse, mais aussi la clémentine de Corse quand même.
Et la très belle clémentine de Corse, excusez-moi Sébastien, merci beaucoup de m'aider.
les fruits exotiques aussi, on peut aussi se faire plaisir en mettant un peu de soleil, non?
Alors on en a plein, et puis ils ont tous, moi je trouve, des noms magnifiques. On va parler de ceux qu'on connaît le plus, la mangue, l'ananas, la noix de coco, le litchi, on vient d'en parler, la papaye. Mais on peut aussi partir sur ceux qui sont un petit peu moins connus. Là, on va citer la figue de Barbarie, le pitaya, le mangoustan, le physalis avec sa légère, son arrière-goût d'agrumes. On va parler de carambole, d'anone ou de sapotille.
Voilà, il y a des fruits à goûter. Hein. Il y a des fruits à goûter qu'on connaît pas forcément. Merci beaucoup Boris Richeux pour ces quelques idées. On vous souhaite de très belles fêtes et un bon sprint d'ici à jeudi, j'imagine.
Merci beaucoup Sébastien.
À bientôt sur Europe 1. 5h29, c'est l'heure de retrouver Laurent Cabrol. Pour le temps, qu'est-ce que vous voyez sur vos cartes, Laurent ?
Le temps s'arrange vraiment de manière assez spectaculaire et dans le courant de la matinée, il va encore s'améliorer, notamment sur les côtes de la Manche où nous avons des pluies en ce moment. Des pluies qui vont s'effriter au fil des heures avec des vents de sud de 70 km/h. Autre point, disons un point noir si je puis dire, ce sont les côtes méditerranéennes où là nous avons des vents marins et donc des pluies cévenoles, des pluies qui sont un petit peu plus fortes que dans le nord, et ces pluies concerneront pratiquement le Languedoc, le Roussillon jusqu'en Provence et Côte d'Azur vraiment, et même remontant jusqu'aux confins de la région lyonnaise. Bref, c'est le point noir, l'autre point noir, alors que partout ailleurs dans le nord, dans le nord-est, en région parisienne, en Poitou-Charentes, etc., partout ailleurs nous aurons des éclaircies et un temps plutôt sympathique. Les températures maximales aujourd'hui entre 10 et 17 degrés. Marseille 17, c'est là qu'il fera le plus doux. Paris 10 degrés, c'est là qu'il fera le moins chaud, si je puis dire. 11 degrés à Dunkerque, 12 à Besançon cet après-midi. 14 à Clermont-Ferrand et Lyon. Et 15 degrés à Nîmes et à Perpignan.
Merci Laurent Cabrol, à tout à l'heure.
Europe Matin, le 5-7. Sébastien Krebs.
Bienvenue sur Europe 1 si vous nous rejoignez au réveil. Tout de suite un nouveau journal. Bonjour Hélène Zélani.
Bonjour Sébastien, bonjour à tous.
Il est 5h30.
À un moment donné, c'est des emplois, on les veut pas, on en a besoin. Ce ne sont pas, c'est pas un débarquement chinois totalement inconnu.
Le mastodonte chinois des télécoms Huawei s'installe dans l'est de la France, près de Strasbourg. Il devrait créer 300 emplois dans un premier temps. Excellente nouvelle pour la ville de Brumath. Emmanuel Macron se confine au pavillon de la Lanterne à Versailles. Le président, contrôlé positif au Covid, souffre de symptômes légers. Le verdict dans le procès de l'attentat manqué du Thalys, perpétuité pour l'homme qui comptait faire un carnage. Et puis demi-finale de l'Euro féminin de handball. Aujourd'hui, les Bleus affrontent la Croatie.
Ce soir, c'est vacances scolaires, mais la rentrée de janvier est déjà source d'inquiétude, notamment pour les terminales. Avec les cours à distance, certains élèves prennent du retard. Profs et parents demandent un report des premières épreuves du bac prévues en mars. On en parle après le journal avec Rodrigo Arenas de la FCPE. Et puis on retrouvera Jérôme Lacroix pour La France Bouge, 5h31.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Le géant chinois des télécoms va donc installer une usine chez nous en France, précisément dans l'Est, à Brumath, au nord de Strasbourg. Sa première usine hors de Chine. À la clé, 200 millions d'euros d'investissement, au moins 300 emplois et de belles retombées fiscales pour les collectivités.
Et à Brumath, pas question d'entrer dans les polémiques. On voit avant tout le côté positif, comme l'a constaté Arthur Enbaché.
Et alors, voilà en résumé l'état d'esprit des habitants. Le controversé géant chinois Huawei, promoteur de la controversée 5G, débarque à Brumath. Et alors, il y a 300 emplois à la clé.
Moi, je suis directrice dans un hôtel, donc ça peut me ramener effectivement beaucoup de taux d'occupation, de restauration pour les formules déjeuner le midi.
Et toute la dimension, j'allais dire, polémique de Huawei, les Chinois, la 5G ?
Oh, pas du tout. De toute manière, ce sera le progrès. Il ne faut jamais se rebuffer contre le progrès. Ce n'est pas nécessaire, c'est dommage, quoi.
Bon, après, il y a... est-ce que les Chinois vont avoir l'empire sur le monde, quoi, hein ? C'est ça le risque, quoi. Mais bon... C'est pas à cause de cette usine sur Brumath que ça va chavirer, quoi.
Claude Sturny préside l'agglomération de Haguenau. Il a piloté la candidature de Brumath.
Je suis pas prêt à en faire une question politique. On discute pas le bien fondé de l'implantation d'une usine d'armement ou d'une usine alimentaire ou d'une usine abandonnée. C'est des emplois. On les veut pas. On en a besoin. C'est pas un débarquement de Chinois totalement inconnu.
Si tout se passe comme prévu, lancement de l'usine Huawei de Brumath en 2023.
Arthur Enbaché. Emmanuel Macron est apparu pour la première fois hier soir depuis l'annonce de sa positivité au Covid. Le président qui portait un masque FFP2 participait à une conférence humanitaire depuis l'Elysée.
Oui, intervention en visioconférence pour un chef de l'État très fatigué. Il souffre apparemment de symptômes légers. Le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, a donné de ses nouvelles hier soir.
Il a des symptômes réels de la maladie, c'est-à-dire... une toux et une fatigue importante, notamment. Le président est suivi par un médecin du service de santé des armées en continu et en temps normal déjà. Donc il n'y a pas d'inquiétude à avoir sur son suivi. Il y a un choix du président de la République qui est celui d'une transparence totale. D'ailleurs, dès qu'il a reçu ce matin le diagnostic positif de son test, il a tenu à ce que l'information soit communiquée aux Français en toute transparence. Je suis chez vous ce soir pour communiquer en toute transparence sur son état de santé ce soir. Et je ne sais pas si ça sera chaque jour un bulletin ou si je viendrai chaque jour sur votre plateau. En tout cas, la transparence, évidemment, est toujours la règle pour nous et elle le restera.
La transparence, promet le porte-parole du gouvernement. C'était hier soir sur BFM TV. Emmanuel Macron s'est isolé à la résidence de la Lanterne à Versailles sans sa femme Brigitte, qui elle a été testée négative. Le président pourrait avoir été contaminé la semaine dernière lors d'un conseil européen à Bruxelles.
Contraint lui aussi à l'isolement, le Premier ministre Jean Castex n'est donc pas allé hier devant le Sénat pour présenter la stratégie vaccinale du gouvernement.
Les États-Unis s'apprêtent à autoriser un deuxième vaccin contre le Covid, celui de Moderna. Dans l'ensemble de l'Union européenne, la vaccination commencera les 27, 28 et 29 décembre.
Vous connaissez sans doute son visage. Le professeur Christian Perron a souvent arpenté les plateaux télé avec des critiques sévères sur les mesures destinées à lutter contre le Covid.
Mais aussi pour des propos de plus en plus complotistes. Ce médecin vient d'être démis de ses fonctions de chef de service des maladies infectieuses à l'hôpital Raymond Poincaré de Garches. Théo Manval, vous l'aviez rencontré il y a quelques semaines. On l'a beaucoup entendu dans les médias et son livre fait un carton en librairie.
Ouais, 90 000 ventes en 6 mois, c'est même plus que le livre du professeur Raoult. Christian Perronnet trie depuis le début la stratégie sanitaire, avec notamment une obsession pour l'hydroxychloroquine.
Ces morts auraient pu être évitées si on avait traité tout le monde tout de suite avec l'hydroxychloroquine. On fait peur aux médecins pour pas qu'ils prescrivent.
Propos évidemment à l'encontre de tout ce qu'ont démontré les études d'ampleur hein, et qui avait valu au professeur Perronnet un premier courrier du conseil de déontologie de l'APHP cet été. Mais depuis, il a aussi affirmé que le port du masque ferait baisser le taux d'oxygène dans le sang. C'est faux. Ou que les malades du Covid sont une aubaine financière pour les médecins sur Sud Radio.
Un médecin généraliste qui déclare un test Covid positif d'un de ses patients, il touche de l'argent. Donc il a intérêt à faire beaucoup de tests et puis par chance, de temps en temps, il va en avoir un qui est positif.
Oui.
Et c'est le jackpot pour les hôpitaux et les services.
Ce sont notamment ces déclarations hein, que la PHP juge aujourd'hui indignes de la fonction qu'il exerce. Mais Christian Perronnet a aussi clairement glissé vers le complotisme à propos des vaccins.
On veut nous imposer tout ça pour que les Français craquent en disant bah, on vous enlève le masque si vous acceptez le vaccin. Je pense une manipulation de la science. Par qui, par quoi, je sais pas. C'est pas à moi de dire qui c'est.
Il risque aujourd'hui des poursuites disciplinaires, puisque la PHP a porté plainte devant l'Ordre des médecins.
Théo Manval.
Il est 5h35 sur Europe 1. Le verdict est tombé au procès de l'attentat déjoué du Thalys. Perpétuité pour le tireur Ayoub Al-Kazani.
Trois hommes qui comparaissaient à ses côtés sont condamnés à 27, 25 et 7 ans de prison. En août 2015, Ayoub Al-Kazani, lourdement armé, avait blessé deux personnes. Mais pour la cour, il avait l'intention de commettre un attentat de masse. Gladys Lafitte.
Pour la cour, cela ne fait aucun doute, Ayoub Al-Kazani était déterminé à tuer tous les passagers du Thalys. La preuve, son arsenal de guerre, une Kalachnikov, un pistolet et près de 300 munitions, et sa résistance, une force surhumaine face aux passagers qui l'ont désarmé. Les juges n'ont pas été convaincus par l'invraisemblance de ses déclarations au procès. Ils ont aussi condamné son silence sur la présence d'Abdelhamid Abaoud en Europe, futur coordinateur du 13 novembre, qui préparait d'autres attaques, un lien démontré lors du procès selon Thibaut de Montbrial, avocat des héros du Thalys.
Les juges se sont vraiment attachés dans le détail à expliquer en quoi cette cellule terroriste envoyée depuis la Syrie s'inscrivait dans le temps long. C'était en quelque sorte ce procès Thalys, l'avant-garde du procès du 13 novembre.
Trois autres hommes ont donc aussi été condamnés, tous trois aussi en lien avec Abdelhamid Abaoud, grâce à qui il a pu rejoindre l'Europe en prenant la route des migrants. L'un d'eux a été condamné à 25 ans de réclusion. Il comparaîtra aussi au procès des attentats du 13 novembre pour son rôle supposé de logisticien en septembre prochain.
Et l'accusé va faire appel de sa condamnation.
On termine avec les sports et le handball. L'équipe de France féminine de hand joue tout à l'heure sa place en finale de l'Euro.
Oui, les Bleus partent favorites face à la Croatie. Elles ont soif de revanche après le fiasco du mondial l'an dernier. Cet euro leur permettrait donc de laver l'affront. Marguerite Lefebvre.
Pour les joueuses de l'équipe de France, la plaie de Kumamoto a mis du temps à cicatriser. Il y a un an tout juste, les Bleues, championnes du monde en titre, étaient évincées du mondial au terme d'un premier tour humiliant. Un an plus tard, c'est un autre visage de l'équipe de France que l'on découvre. Les Bleus sont invaincus dans cet euro et leur sélectionneur Olivier Crumbles salue la ténacité de ces joueuses.
Les filles travaillent énormément. Le groupe va très bien. Il s'est très clairement remis en marche en avant depuis l'accident de Kumamoto. Je sais qu'elles sont suffisamment organisées, intelligentes pour aborder ce match avec ambition, mais aussi beaucoup d'humilité.
Ce match, c'est la demi-finale contre la Croatie. Les Bleus sont ultra favorites, elles dont l'enthousiasme transpire depuis le début de la compétition. Un ressenti que confirme la demi-centre Grace Zahadi.
Il y a toujours la même bonne ambiance, la joie, tout ce qui nous lie est toujours présent aujourd'hui. Forcément, il y a de l'excitation et peut-être un peu d'appréhension, mais en tout cas, on est motivé et on sera prête pour cette demi-finale.
Motivation qu'elles puiseront dans leur chambre d'hôtel Derning au Danemark. Les Bleus y sont confinés depuis le début de l'Euro.
Et le coup d'envoi du match France-Croatie, c'est tout à l'heure à 18h.
On y revient avec Jérôme Lacroix, bien sûr, dans la page des sports. Tout à l'heure à 6h10, c'était Hélène Zelani pour le journal, 5h38. Et place aux courses à présent avec vos pronostics du quintet, Thierry Léger.
C'est sur l'hippodrome de Vincennes que se disputera ce quintet. Et parmi les 16 chevaux âgés de 7 à 9 ans, priorité aux 7 ans avec le numéro 13, Diva du Granit, qui va évoluer sur un parcours de tenue à son entière convenance. Dès lors, si elle veut bien se montrer coopérative, sa place est à coup sûr dans les 5 premiers. On lui opposera le numéro 16, Datcha, idéalement engagé au plafond des gains et qui possède des références solides à Vincennes. Le 6, Jado, dont le dernier échec dimanche dernier à Reims ne compte absolument pas, ayant été victime d'un accrochage. Et le numéro 7, Duc d'Or, doué, mais avec lequel ce sera une nouvelle fois une question de sagesse. Ensuite, je vous recommande les numéros 15, Darling Berry chuchoté, 11, Braco en regain de forme, 4, Secta régulier et 3, Don Juan du Houlet à reprendre en confiance. Mon pronostic, 13, 16, 6, 7, 15, 11, 4 et 3.
C'est noté Thierry Léger. Tous vos pronostics, bien sûr, à retrouver sur europe1.fr. Il est 6h20.
Sébastien Krebs sur Europe 1.
Et j'accueille le premier invité de ce 5-7. Bonjour Rodrigo Arenas.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes le président de la FCPE. C'est ce soir les congés scolaires pour tous les élèves. Quel bilan vous faites, vous, parents d'élèves, de cette école sous confinement ces derniers mois, sous mesures sanitaires? Globalement, ça a bien fonctionné?
Ça fonctionne bien grâce à l'investissement complètement investi dans le sens du service public des enseignants et des équipes pédagogiques et d'encadrement. C'est-à-dire que les parents ont pu confier leurs enfants en toute sérénité. En revanche, par rapport à la question des gestes barrières, la question reste entière, notamment en raison de l'annonce du Premier ministre sur le fait de pouvoir quitter l'école avec un mot des parents, jeudi et vendredi, donc aujourd'hui, et que ce serait toléré pour permettre que les fêtes de fin d'année, en particulier Noël, se tiennent de la meilleure des façons, sans contaminer notamment les personnes vulnérables et au premier titre.
Cette suggestion vous a troublé ?
C'est extrêmement troublant parce que nous estimons que ce n'est pas aux parents de décider si les enfants doivent aller à l'école pour des raisons de santé publique ou de santé tout court. C'est à un médecin d'estimer cela. La seule chose que doivent faire les parents, c'est de voir si les enfants sont en bonne santé pour aller à l'école, et s'ils ne le sont pas, ils doivent faire appel à un médecin parce qu'il faut fournir un mot d'excuse dans ce cas-là. Et donc c'est très inquiétant parce que l'école en France est obligatoire, qu'elle soit sous forme d'instruction ou pas, elle est obligatoire. Et à ce titre-là, ce n'est pas aux parents de décider de ce critère-là, c'est bien à un médecin de le faire. Il nous paraît curieux qu'au même moment où la FCPE met un livret laïcité entre les mains de tous ses adhérents pour expliquer que ce ne sont pas les parents qui décident de la scolarisation d'un enfant, mais bien à l'autorité publique, qu'on redonne ce pouvoir aux parents qui n'est pas le leur. C'est une drôle de façon aussi de soutenir les enseignants qui, nous en convenons tous, au niveau de notre pays, ont besoin de regagner dans une autorité bienveillante, que le déposséder de ce rôle et de confier aux parents. C'est extrêmement contre-productif, mais surtout ça sous-entend que les écoles sont des lieux de contamination. Et nous avons écrit au Premier ministre hier pour lui demander de faire toute la lumière sur cette question. Est-ce que les écoles, oui ou non, sont des lieux de contamination de nos enfants? Et dans ce cas-là, la contamination aussi des enseignants et de nos concitoyens à travers les familles. C'est une question qui est ouverte et qui reste entière aujourd'hui, car en disant qu'on pouvait retirer les enfants pour ne pas contaminer pendant les fêtes d'école, ça sous-entend évidemment que les écoles peuvent être ces lieux de contamination. Et nous ne voulons pas envoyer nos enfants à l'école s'ils sont un danger pour leur famille, pour leurs enseignants et pour le reste de nos concitoyens.
Vous êtes inquiet pour la rentrée ?
Alors oui, vous avez raison, il y a énormément de parents mais d'élèves aussi à travers les syndicats lycéens qui nous contactent et nous informent qu'il y a une grande inquiétude par rapport notamment au bac qui quand même organise la vie scolaire ne serait-ce qu'au point de vue des symboles de fin d'année. Et nous savons que dans la période de confinement que nous venons de vivre, c'est-à-dire l'école à mi-temps aujourd'hui, notamment dans les lycées, les élèves n'ont pas eu la même école, ne serait-ce qu'en termes de jours, en termes de aussi de moyens mis à disposition pour faire ce suivi-là, et que l'inégalité de traitement des élèves ne peut pas se traduire dans un diplôme qui est national et qui doit être égalitaire parce que c'est un diplôme national. Donc aujourd'hui, nous ne comprenons pas pourquoi est-ce que rien ne bouge, que les programmes ne bougent pas alors que l'école, elle, et les lycées en particulier, pour les lycéens, est à mi-temps.
Elle est à mi-temps en présentiel. Mais selon vous, c'est un problème pour la bonne préparation des élèves ?
Oui, c'est un problème parce qu'elle n'est pas à mi-temps qu'en présentiel, elle est aussi à mi-temps tout court. Je pense notamment à ces élèves qui ont eu un jour de cours et le lendemain qui font des devoirs à la maison, pour être simple. Tout ça existe, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un traitement égal à travers toute la France. Il y a par exemple ces établissements qui se sont équipés de webcams pour faire en fait des cours en ligne, et celles qui ne l'ont pas fait, faute de moyens. Donc vous voyez, on ne peut pas faire un bac qui se veut égalitaire parce que national et avoir un traitement différencié de nos enfants. Mais au-delà de cette question académique, pédagogique et de bon sens, sens, il y a aussi le moral de nos enfants. Les lycéens ne vont pas bien et qu'on ne prend pas en compte l'aspect psychologique du confinement, c'est-à-dire qu'on ne peut pas demander aux élèves d'être dans les mêmes conditions d'examen en sachant que nous sommes tous affectés par la situation sanitaire que nous traversons, qu'on soit jeune ou moins jeune. Et donc dans cet ordre-là, Parcoursup, qui est l'outil de sélection des lycéens, n'est plus adapté. Il n'est pas adapté car l'outil mathématique, l'algorithme qu'il utilise ne permet pas aujourd'hui de répondre à deux questions. D'abord le fait qu'on ne peut pas tenir compte dans un modèle mathématique, un algorithme, de l'aspect psychologique que je viens de détailler, c'est que ces enfants qui ne vont pas bien et qui pour certains se traduit dans la pire des situations, mais aussi parce que beaucoup de nos enfants se sont découverts de nouvelles vocations et que l'université ou le post-bac ne répondra pas à cette demande. Je pense à tous ces enfants qui veulent devenir soignants parce qu'ils sont complètement inspirés par le rôle qu'ont joué les soignants dans cette période, ou d'autres aussi qui se découvrent des passions pour, par exemple, travailler dans les EHPAD auprès des personnes âgées, c'est-à-dire ces enfants qui veulent être utiles. Ces reconversions d'orientation ne sont pas prises en compte aujourd'hui par Parcoursup, et donc il faut aujourd'hui faire en sorte que les enfants, les élèves, puissent choisir l'orientation de leur choix après le bac, ce qui était d'ailleurs peut-être la seule exception culturelle française au niveau éducatif à travers le monde.
Rodrigo Arenas, donc ces soucis d'orientation est plus proche de nous, les premières épreuves du bac 2021 qui doivent avoir lieu au mois de mars, les premières épreuves écrites qui concernent les spécialités pour les élèves de terminale. Ces épreuves du mois de mars, il faut les repousser?
Alors écoutez, c'est ce que demande un collectif d'enseignants, notamment de sciences économiques, et que nous soutenons évidemment, qui reprend évidemment la problématique des enseignants qui n'ont pas pu faire classe normalement. Donc il paraît curieux de faire des évaluations, encore une fois, qui sont inégalitaires en fonction de l'établissement dans lequel vont nos enfants, mais aussi parce que faire des examens dans ces conditions au mois de mars n'est pas très sérieux au regard de la période que nous venons de traverser, qui a été extrêmement désorganisée. Donc on met une surcharge supplémentaire aux enseignants qui, pour certains, nous le disent, ont bien du mal à supporter la situation que nous vivons tous, mais qui pour autant le font avec plus que leur salaire. Je ne mets pas le couvert sur le niveau de rémunération des enseignants qui est indécent pour un pays comme la France, mais au-delà de ça, évidemment qu'on ne peut pas leur demander de faire des examens au mois de mars qui ne sont pas dans des conditions optimales pour avoir des résultats qui soient, on va dire, autorisés pour pouvoir donner une évaluation de nos enfants et qui compteront pour le baccalauréat, évidemment.
Et d'ailleurs, une pétition a été mise en ligne par ce collectif d'enseignants qui demande non seulement le report de ces épreuves, mais aussi la suppression du grand oral qui est prévu en fin d'année et la réduction du volume des programmes. Merci beaucoup, Rodrigo Arenas, président de l'Association des parents d'élèves, la FCPE. Bonne journée à vous.
Merci à vous aussi. Au revoir.
Europe 1.
Il est 5h46 sur Europe 1 et c'est l'heure de mettre, comme chaque matin, en lumière ceux qui font bouger la France et qui ont des idées et qui mènent de belles initiatives. C'est vous qui les traquez, Jérôme Lacroix. Où est-ce que vous allez ce matin?
On part à Larmor-Baden, Morbihan, en Bretagne, où comment répandre du bonheur et de la chaleur humaine avec un stylo de jolis mots et beaucoup d'imagination et de générosité. Je vous raconte l'histoire d'une factrice née du Covid, bien singulière.
Répandre du bonheur, c'est très Noël encore comme sujet. À tout de suite sur Europe 1.
Europe 1, Sébastien Krebs.
Il est 5h48 sur Europe 1. Le Covid n'est pas vraiment une grippette. Selon une étude française publiée ce matin, il a fait 3 fois plus de morts à l'hôpital que la grippe saisonnière classique. Étude qui porte sur plus de 135 000 patients. Emmanuel Macron, lui, souffre, selon l'Élysée, d'un peu de toux et de courbatures. Il est désormais isolé à la résidence de la Lanterne. Londres et l'Union européenne, toujours pas sur la même longueur d'onde. Impossible de trouver un accord commercial post-Brexit. Pour la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, il sera très difficile de combler les divergences d'ici au 31 décembre. Et puis cette issue dramatique après la prise d'otage qui a eu lieu hier soir à Domont dans le Val d'Oise. Un homme a tué sa femme avant de se suicider dans les locaux de son entreprise. Il avait blessé 2 salariés un peu plus tôt dans la soirée.
Écoutez Le Monde Changer avec Sébastien Krebs sur Europe 1.
Et c'est l'heure de la France Bouge. Avec vous, Jérôme Lacroix, toutes ces belles initiatives que vous mettez en valeur chaque matin. Ce matin, des lettres d'amour pour les résidents des EHPAD.
Oui, de l'amour, en tout cas une immense affection distribuée gratuitement en capitale et en cursive. Je vous raconte l'histoire de Rosaine Jeudon. Elle est bretonne, oui, de Larmor-Baden, pas très loin de Vannes, dans le Morbihan. Son truc, c'est de distribuer des journaux la nuit, son métier, et le jour, c'est de la tendresse qu'elle distribue, et son arme, sa flèche de Cupidon, on pourrait dire, ce sont les mots via l'envoi de cartes postales.
Et à qui les envoie-t-elle, ces cartes postales?
À destination, oui, des résidents des EHPAD. Elle expédie depuis chez elle, donc depuis Larmor-Baden, des dizaines de missives positives et élaborée, s'il vous plaît, ornée de décorations d'enluminure. Oui, elle est religieuse de formation. Je sais que beaucoup de personnes âgées sont seules, sans visite, sans courrier, raconte Rosane dans Ouest France. Recevoir une carte postale, c'est du bonheur, dit-elle. Ravie d'imaginer les sourires des aînés destinataires. Elle en a fabriqué 250 et commencé la distribution, notamment à Vannes.
Est-ce que, et comme souvent, la générosité fait boule de neige,
oui,
ailleurs.
Deux écoles la rejoignent dans ce projet à Auray et Plescop, donc Morbihan toujours. Rosane les a démarchées pour un total de 600 cartes envoyées depuis un mois. Et vous imaginez bien les vertus auprès des plus jeunes, pas avares de paillettes et autres artifices sur les cartes postales. Ils découvrent à quel point un simple petit message peut faire plaisir. Ils comprennent aussi, notamment les CP, l'utilité de l'apprentissage de l'écriture.
Et ce qu'on sait peut-être un peu moins, c'est que ce principe d'envoyer comme ça gratuitement des cartes postales, bien c'est une pratique connue et même structurée.
Mais oui, ça s'appelle le post-crossing. Alors moi, j'ai découvert vraiment ça, inventé il y a 15 ans au Portugal. Il existe des sites internet, vous vous inscrivez et choisissez au hasard des destinataires et en retour, vous recevez vous-même des lettres ou des cartes postales. Rosane, elle en est membre, elle voudrait que sa chaîne de cartes postales grandisse. Envoyez-moi vos lettres, dit-elle, et je les distribue ensuite dans les maisons de retraite. Elle donne même une adresse chez Rosane Reliure, 28 rue de la Pointe à l'Armor-Baden dans le Morbihan.
Et voilà, bah c'est une idée tiens, pour cette période de Noël d'écrire aux personnes qui sont seules ou isolées. La France bouge chaque matin, c'est avec Jérôme Lacroix. Il est 5h51 et nous regardons ce qui se passe sur les réseaux sociaux ce matin avec vous Hélène Terzian.
Oui, alors aujourd'hui je vais vous parler d'une publicité de Monoprix qui déclenche un flot de commentaires racistes sur Facebook. Sur cette pub en ligne, on voit une mannequin noire, Christelle Yambaïssa, face à un miroir. La jeune femme s'applique sur le visage, le sourire éclatant. Des produits de beauté vendus par l'enseigne. Une promotion tout à fait classique, sauf que sous cette publication, se déverse ce flot de commentaires racistes absolument nauséabonds. Je vous en cite quelques-uns. Le grand remplacement est partout. Il y en a marre de voir des Africains sur chaque affiche publicitaire française. C'est terrible. Monoprix a décidé de laisser les commentaires pour mieux les dénoncer. Des propos scandaleux, écrit l'enseigne. Et la mannequin s'est quant à elle exprimée dans une vidéo qu'elle a postée sur son compte Instagram. Christelle Yambaïssa interpelle directement Facebook.
Comment, avec votre impact, votre place dans la société, vos équipes arrivent à concevoir une IA capable de détecter n'importe quel mot ou groupe de mots associé à la situation sanitaire, mais est incapable depuis des années de modérer ou supprimer du contenu et des commentaires racistes, misogynes, homophobes, antisémites, d'injures et d'harcèlement.
Après deux jours de publication, la vidéo cumule déjà plus de 170 000 vues et c'est au bout de 5 jours que les modérateurs de Facebook ont commencé à supprimer les commentaires haineux, mais il semblerait que certains soient aujourd'hui toujours présents.
5 jours pour retrouver et pour supprimer ces commentaires. C'est terrible, c'est une pub absolument classique, elle est extrêmement belle. En plus, c'est juste une promotion pour du maquillage assez classique. La seule différence avec une autre publicité, c'est que la mannequin qui pose et noir, et c'est ça qui déclenche l'hystérie de certains, de quelques-uns, ce qui suffit, hein, bien sûr.
Et intéressant de l'entendre, elle, réagir également.
5h53, merci Hélène Terzian. On de la raconte à 14h sur Europe 1 avec l'histoire du jour que vous pouvez d'ores et déjà retrouver sur europe1.fr et l'écouter en podcast. C'est celle de la disparition de Paquita Parra. En 1998, Paquita Parra est retrouvée carbonisée dans sa voiture dans la vallée des Eaux Claires près d'Angoulême. En 2010, la justice prononce un non-lieu et 20 ans plus tard, ses papiers sont retrouvés intacts à 2 km du drame. Le récit avec Christophe Ondelat, c'est On de la raconte sur europe1.fr.
Europe Matin, le 5-7. Sébastien Krebs.
Bonjour Fanny Agostini.
Bonjour Sébastien, bonjour à tous.
On regarde notre planète avec vous chaque matin. Et vous vouliez nous parler ce matin d'une récente étude qui vient de démontrer que la masse des objets créés par l'homme pèse désormais plus lourd que ce qu'on appelle la biomasse.
Oui, déjà laissez-moi vous décortiquer ce mot un peu technique, la biomasse. La biomasse, c'est le poids que représentent toutes les formes de vie sur Terre, végétales ou animales, la biodiversité, qu'elle soit domestique, sauvage ou cultivée. On met même dans la balance les bactéries. En gros, tout ce qui est issu du vivant et qui, par le processus magique du recyclage de la matière, car la nature ne sait pas faire autrement que de recycler à l'infini, eh bien tout cet ensemble serait aujourd'hui dépassé, écrasé sous le poids d'objets artificiels créés par l'homo sapiens. Sapiens. Les bâtiments, les routes, toutes les infrastructures lourdes, ainsi que la production de déchets. Nous produisons de plus en plus d'artificiel au détriment de cette biomasse qui prend une part de moins en moins importante dans la grande balance planétaire.
Et à quel moment ce basculement a eu lieu ?
L'étude en question, qui a été réalisée par une équipe israélienne de l'Institut Weizmann des sciences et publiée dans la revue Nature, a chiffré qu'en 1900, la masse des objets fabriqués par l'homme ne représentait que 3% de la masse totale de tous les êtres vivants. Et puis, le poids des objets fabriqués par l'homme a doublé environ tous les 20 ans, avec une accélération depuis la Seconde Guerre mondiale, et ensuite, notamment avec une poussée du développement urbain, 2020 pourrait être l'année du grand basculement, l'année où l'humain est devenu plus productif que la biosphère.
Mais les objets artificiels que nous fabriquons sont bien issus de la nature, non ?
Oui, alors je n'ai pas dit le contraire. Nous prélevons effectivement dans la nature pour fabriquer ce dont nous estimons avoir besoin. Mais ce que nous fabriquons devient ensuite inerte, alors que la nature, elle, produit de la biomasse à partir de déchets organiques et sans cesse recrée et retransforme à partir de l'existant. Alors que nos systèmes socio-économiques, eux, figent le vivant en l'artificialisant, ce qui nous conduit inéluctablement vers un réchauffement climatique et une artificialisation du monde. Ce qui m'invite à vous relire ce proverbe indien que vous connaissez peut-être déjà, et pour terminer avec un petit peu de sagesse, quand le dernier arbre sera abattu, la dernière rivière empoisonnée, le dernier poisson pêché, alors vous découvrirez que l'argent ne se mange pas.
Voilà, l'artificialisation de la planète, le poids des objets fabriqués par l'homme et l'année de la bascule en 2020. Fanny Agostini pour Notre Planète chaque matin. Merci Fanny.
Europe Matin, le 5-7.
Sébastien Krebs.
Écoutez le monde changer.
Bienvenue à tous sur Europe 1, si vous nous rejoignez au réveil. Nous sommes le vendredi 18 décembre, il est presque 6h du matin. Et allez, avant que le week-end débute vraiment, j'avais envie de vous faire écouter ceci. Le géant Paul McCartney sort un nouvel album, c'est son 18e depuis la fin des Beatles. Album qu'il a écrit un peu par la force des choses, hein. Coincé, isolé dans sa ferme anglaise au moment du premier confinement. McCartney, 78 ans, il est toujours là. À la une, ce matin, dans ce 5-7, il y a bien sûr les suites de l'annonce qui a secoué le sommet du pouvoir. Emmanuel Macron positif au Covid, qui s'installe seul à la lanterne. Et cette intention affichée par le porte-parole du gouvernement.
Il y a un choix du président de la République qui est celui d'une transparence totale. D'ailleurs, il a tenu à ce que l'information soit communiquée aux Français. La transparence, évidemment, est toujours la règle pour nous et elle le restera.
La transparence est la règle, dit sur BFM Gabriel Attal. Est-elle bien réelle ? On sait combien la santé des présidents est un sujet hautement sensible. On va en parler à 6h40 avec mon invité qui a enquêté sur le sujet. Il est l'auteur du dernier tabou, Révélation sur la santé des présidents. C'est Denis de Montpion qui sera avec moi tout à l'heure à 6h40. À suivre d'ici 7h, tous vos rendez-vous, bien sûr. L'innovation, la revue de presse internationale. On ira notamment en Russie. La Russie, à nouveau, exclue des JO de Tokyo, mais aussi des JO d'hiver. Et puis, un tube ce matin, et je vous promets, il va vous rester dans la tête. Allez, on se met dans cette atmosphère de Noël. All I Want For Christmas, le tube de Mariah Carey. Bon, c'est la chanson de Noël la plus matraquée, la plus écoutée chaque année. Imaginez, elle a déjà rapporté à la star plus de 60 millions de dollars. L'histoire derrière ce tube planétaire, c'est à 6h25. Partition spéciale Noël avec Omblin Roche tout à l'heure. Laurent Cabrol, quel est le temps qui nous attend aujourd'hui ?
Bah c'est pas mal. C'est un temps calme en général. Je regarde les températures à l'instant puisque elles tombent régulièrement. Celles-ci, ce sont les dernières. Entre 0 et moins 1 à Épinal, Nevers, Luxeuil. Il fait un peu plus froid, vous voyez. 1 à Strasbourg en ce moment, 3 à Nancy, 4 à Tours, 7 à Cognac, 8 à Paris et Lille, comme à Lyon, et 10 degrés à Caen. Alors quand je dis pas mal le temps, c'est que pratiquement sur toute la France, 4/5 de la France, nous avons des brumes, bien sûr, mais enfin, ça n'est rien, c'est normal. Et puis, en plus, nous aurons de belles périodes de soleil. Alors, il y a quand même deux points noirs, comme j'indiquais tout à l'heure, il y a une demi-heure, c'est-à-dire l'Hérault, le Gard, la Drôme, en remontant vers la vallée du Rhône, dans le delta du Rhône aussi, ce sont des petites pluies et qui deviendront de plus en plus fortes au fil des heures. Et puis, autre pluie dans le Finistère. C'est une perturbation qui va longer la Manche dans le courant de la journée, mais qui ne nous apportera pas grand-chose, uniquement quelques pluies côtières. Donc, hormis ces deux points noirs, ou deux points gris, comme vous voulez, eh bien, nous aurons un temps calme et serein, avec des températures maximales qui, elles, ne changent pas trop, entre 11 et 16 degrés.
Très bien, Laurent Cabrol, et on vous retrouve bien sûr juste avant 6h30. À tout à l'heure.
Europe Matin, le 5-7. Sébastien Krebs.
Tout de suite, votre journal avec Sophie Echen. Bonjour Sophie.
Bonjour Sébastien, bonjour à tous.
Il est 6h.
Depuis quelques mois, on avait des emprunts qui étaient accordés à des gens qui avaient de l'argent. Mais en revanche, sur les primo-accédants, on sentait réellement que ça coinçait.
Les règles pour obtenir un crédit immobilier assouplies par le gouvernement, le taux et la durée d'endettement ont été allongés. Emmanuel Macron, positif au Covid, se confine à la Lanterne à Versailles. Il continuera à travailler pendant son isolement, précise l'Élysée. Le procès de l'achat des votes à Corbeil-Essonnes et l'ancien maire de la ville, ex-bras droit de Serge Dassault, écope de 2 ans de prison ferme. Et puis Airbus souffle ses 50 bougies aujourd'hui. Un demi-siècle après sa création, on va s'intéresser à l'état de l'avionneur frappé de plein fouet par la crise. C'est le dossier de la rédaction à retrouver à la fin de ce journal.
À suivre les sports avec Jérôme Lacroix et l'équipe de France féminine de hand qui joue tout à l'heure sa place en finale de l'Euro. Et puis cet anniversaire d'Airbus dont vous parliez. On va parler d'aviation tout à l'heure avec mon invité inattendu qui est un passionné que vous ne soupçonnez pas. Vous le connaissez surtout comme champion olympique de natation. Il sera avec nous à 6h15. Bon réveil à tous.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Tendez bien l'oreille si vous projetez d'investir dans la pierre. Les règles pour obtenir un crédit immobilier vont être assouplies. Une bonne nouvelle, Élise Dangean, car cela signifie qu'on va pouvoir emprunter plus facilement.
Et oui, le Haut Conseil à la stabilité financière a revu ses exigences à la baisse. Sur le taux d'endettement, il recommande désormais aux banques de ne pas dépasser les 35%. Contre 33 auparavant, et ça change tout. Prenez un couple qui gagne 3000 euros net par mois, par exemple, avec un taux à 1,10 sur 20 ans, et bien il va pouvoir emprunter 12 000 euros de plus. Une excellente nouvelle pour les primo-accédants, les plus jeunes, ceux qui ont peu ou pas d'épargne, selon Maëlle Barnier, porte-parole de meilleurtaux.com.
On avait aujourd'hui des primo-accédants qui étaient sortis du marché, y compris des jeunes fonctionnaires. Moi, j'ai vu des dossiers être arrêtés parce qu'ils avaient pu être à 34,5% d'endettement et plus 33%, alors qu'ils étaient tous les deux sur une totale stabilité de l'emploi. Donc, on observait, nous, depuis quelques mois, vraiment qu'on avait des emprunts qui étaient accordés à des gens qui avaient de l'argent, qui avaient des revenus aisés et de l'épargne, donc plutôt les plus âgés, finalement, les 40-45 ans. Mais en revanche, sur les primo-accédants, on sentait réellement que ça coinçait.
Autre changement, la durée de l'emprunt. On va pouvoir aller jusqu'à 27 ans et non plus 25. Très utile pour les gens qui font construire ou qui achètent sur plan.
Les précisions d'Élise Dangean du service économie d'Europe 1.
L'autre grand titre ce matin, c'est bien sûr l'état de santé d'Emmanuel Macron, diagnostiqué positif hier au Covid.
Le président français s'est isolé hier dans sa résidence de la Lanterne à Versailles. Alors Jean-Rémy Baudot, que sait-on de son état ce matin ?
Eh bien, selon son entourage, Emmanuel Macron souffre d'une toux, d'une importante fatigue ainsi que de fièvre. Un président souffrant à l'isolement, il est arrivé hier soir à Versailles, seul, sans sa femme Brigitte, dans la résidence officielle de la Lanterne. Sur place, entouré d'un staff médical, il pourra à la fois s'isoler et continuer à travailler, indique l'Élysée. Pour lui, les prochains jours vont ressembler à un interminable enchaînement de réunions en visioconférence, évidemment du repos, mais ses collaborateurs ne viendront plus dans son bureau. L'Élysée devrait ainsi vivre sous cloche le temps de l'isolement du président. Reste la question de la contamination du chef de l'État. Il a dû se contaminer en fin de semaine dernière, probablement à Bruxelles, lors du Conseil européen, glisse un conseiller à l'Élysée. Emmanuel Macron positif, l'illustration que les gestes barrières ne sont pas toujours suffisants, ou bien que parfois on les oublie. L'entourage du président s'en défend. S'il avait été imprudent, il aurait été contaminé bien plus tôt, affirme une conseillère.
Jean-Rémy Baudot, et la contamination d'Emmanuel Macron a provoqué une cascade de cas contacts. Jean Castex, le Premier ministre, s'est lui aussi placé à l'isolement par précaution. Plus de 18 000 nouveaux cas de Covid enregistrés hier. L'épidémie a déjà fait près de 60 000 morts en France. Par ailleurs, on apprend ce matin que le virus a fait 3 fois plus de morts à l'hôpital que la grippe, résultat d'une étude publiée dans la revue médicale The Lancet.
Il est 6h04. Le système d'assaut à présent a Corbeil-Essonne, en région parisienne. Ce dispositif d'achat de vote en vue de l'élection municipale de 2009 et 2010. Le jugement du tribunal correctionnel de Paris est tombé hier.
Et l'ancien bras droit de Serge Dassault, Jean-Pierre Bechter, a été condamné à 2 ans de prison. 5 autres personnes qui avaient joué de près ou de loin un rôle dans ce système de corruption électorale ont écopé de 1 à 2 ans de prison. Et ce qui ressort du jugement, c'est surtout la motivation des peines. Justin Morin.
Plus de 12 500 000 euros versés en toute illégalité par Serge Dassault. Et encore, ce n'est que l'argent qui a été tracé lors de l'enquête. Le prix d'une OPA sur la mairie de Corbeil-Essonnes, Jean-Pierre Bechter, un maire de paille, qui a profité du système de corruption. Lors de la lecture de ce jugement, l'ancien maire est l'un de ses adjoints coprévenus présents à la barre en caisse. La présidente déroule. À l'écouter, on pense à un réseau de mafieux au service d'un homme enfin démantelé. Au micro, Sébastien Chapira, avocat de Jean-Pierre Bechter, ne tient même pas à commenter.
Étant innocent, il va évidemment faire appel et il entend bien devant la cour d'appel laver son honneur et être relaxé.
Les prévenus sont aussi condamnés à verser 30 000 euros de dommages et intérêts à l'association Anticor qui milite contre la corruption, représentée par leur avocat Jérôme Carsenti.
Le tribunal a prononcé des mots forts sur les conséquences qu'il y a eu en termes de tentatives d'assassinat, d'extorsion de fonds, de violences commises. Et on voit bien comment la corruption est actrice en réalité des désordres public. Et c'est ça que je trouve que ce jugement rend parfaitement compte.
Pour le nouveau maire de Corbeil-Essonnes, Bruno Piriou, ce jugement va enfin permettre à la ville de tourner définitivement la page d'assaut.
Justin Morin du service police-justice d'Europe 1. Ayoub El-Khazani, le terroriste du Thalys Amsterdam-Paris, a été condamné à la réclusion criminelle à perpétuité. En 2015, il avait failli commettre un bain de sang à bord du train avant d'en être empêché par des passagers.
Europe 1. 6h06 sur Europe 1, Airbus célèbre donc ses 50 ans, son demi-siècle aujourd'hui, l'avionneur français durement touché par la crise, mais qui continue malgré tout d'innover et de se développer. On en parle dans un instant, à tout de suite sur Europe 1.
Europe Matin, le 5-7, Sébastien Krebs.
6h08 sur Europe 1, la suite du journal, Sophie Echen.
Il y a tout juste 50 ans, le 18 décembre 1970, Airbus Industrie voyait le jour, concrétisation de l'accord franco-allemand signé un an avant au Salon du Bourget. Une date symbolique pour une entreprise frappée de plein fouet par la crise sanitaire avec une baisse drastique du trafic aérien. Alors dans ce journal, on va dresser un état des lieux de l'avionneur français.
Bonjour Aurélien Fleureau.
Bonjour.
Vous êtes notre spécialiste transport à la rédaction d'Europe 1. L'entreprise est en train de finaliser des accords avec ces syndicats. Plus de 4200 postes sont menacés. Aurélien, où en sont ces négociations aujourd'hui ?
Alors, syndicats et direction se rejoignent pour dire que l'on voit le bout du tunnel. Encore quelques ajustements et un accord sera trouvé pour éviter le moindre licenciement. Les deux parties veulent absolument atteindre cet objectif de n'avoir que des départs volontaires. Sur les 4200 postes visés, plus de 2000 devraient être sauvés, en grande partie grâce à l'activité partielle de longue durée, mais aussi grâce au Conseil pour la recherche aéronautique civile, le CORAC, qui a bénéficié d'1,5 milliard d'euros grâce au plan de relance. Et chez Airbus, eh bien, cela va donner près de 600 emplois garantis pour travailler sur l'avion du futur. Pour les autres départs, il s'agira en majorité de pré-retraite. Les négociations se poursuivront au moins jusqu'à fin février.
Et le paradoxe aurélien, c'est qu'Airbus n'a pas le choix. Il faut continuer à innover, à anticiper l'avenir.
Oui, et le futur d'Airbus sera forcément vert. Le constructeur a déjà annoncé l'avion à hydrogène pour 2035. Plusieurs concepts sont imaginés en ce moment, comme un court courrier de 100 places qui pourrait atterrir dans de petits aéroports. Le choix de la bonne technologie sera effectué en 2025. Airbus a aussi investi cette année en rachetant 80% d'une entreprise allemande spécialisée dans la pile à combustible. Et puis, il faut aussi préparer les métiers de demain, notamment autour de l'hydrogène. Et là, il faut motiver les écoles pour qu'elles proposent de nouvelles formations. Et ce n'est pas évident, me dit-on, chez Airbus. 2020 aura aussi été l'année du premier vol automatique du City Airbus, ce taxi volant qui pourra emmener 4 personnes pour un trajet de 15 minutes à 120 km/h. Et bien sûr, Airbus, c'est aussi la défense. L'avion de combat du futur se prépare et des contrats au niveau européen seront signés en 2021.
Un dossier complet signé Aurélien Fleureau, spécialiste aéronautique d'Europe 1.
Et on va continuer de rendre hommage à ce fleuron qui est Airbus avec mon invité inattendu dans 5 minutes, qui est un passionné d'aviation qui, vous allez voir, est assez inattendu.
Et puis, après 33 ans de rendez-vous quotidien, Jean-Pierre Pernaut tire sa révérence. Il présentera son dernier journal de 13h tout à l'heure sur TF1. Il avait quand même réussi à réunir 6 millions de téléspectateurs. C'est pas rien.
Sophie Echen pour le journal. Il est 6h10.
Retrouvez le journal des sports avec Winamax. Winamax, les meilleures cotes.
Jérôme Lacroix, à la une de votre journal des sports, une résurrection.
Celle du handball français côté féminin qui se relève emmené par une sacrée bande. C'est le double effet Miss Cool, un bon état d'esprit et des résultats détonnants. Les Bleus jouent ce soir France-Croatie pour une place en finale de l'Euro féminin au Danemark. Elles sont championnes d'Europe en titre, elles croient à la finale. Une revanche, un an après l'énorme couac du Mondial au Japon où elles avaient pris la porte dès le premier tour. Aujourd'hui, elles sont prêtes, sereines et surtout, elles ne prendront pas à la légère l'adversaire croate, novice à ce niveau, assure le sélectionneur Olivier Krumbholz.
Les filles travaillent énormément. Je sais qu'elles sont suffisamment organisées, intelligentes pour aborder ce match avec à la fois énormément d'ambition, mais aussi beaucoup d'humilité.
France-Croatie, demi-finale de l'Euro féminin de handball, coup d'envoi 18h et finale éventuelle dimanche face aux Norvégiennes ou aux Danoises de formation redoutable. Une autre femme à l'honneur ce matin, Sarah Bouadi, la footballeuse de Lyon, élue hier meilleure gardienne du monde lors de la cérémonie The Best, les récompenses de la FIFA, qui fait office cette année de cérémonie du Ballon d'Or, hein, annulée en raison de la pandémie. L'attaquant polonais Robert Lewandowski a été élu meilleur joueur.
La Russie interdite pour 2 ans de toute participation à un grand événement sportif.
Décision hier du tribunal arbitral du sport en raison de pratiques répétées de dopage ces dernières années. Pas de Jeux Olympiques d'été à Tokyo l'été prochain, pas de JO d'hiver 2022 à Pékin. Alors concrètement, ça veut dire pas d'hymne russe, pas de délégation d'athlètes estampillés Russie, mais des athlètes russes en compétition sous bannière olympique, la bannière neutre, bannière olympique, seulement des athlètes qui n'auront jamais été convaincus de dopage par le passé.
À propos des JO, justement, l'un des grands champions français entame aujourd'hui la route qui doit l'y emmener.
C'est Kevin Mayer, la star du décathlon, détenteur du record du monde, vice-champion olympique. Il entame aujourd'hui le parcours de qualification lors d'un meeting à La Réunion. Non sans appréhension, malgré son palmarès, 2 ans qu'il n'est pas parvenu à boucler un décathlon en compétition.
Il faut passer par là pour faire les Jeux. Moi, tout simplement, quand je commence à être très stressé, c'est que c'est bon. Donc, c'est des moments pas très agréables, mais qui mènent à de grosses performances. Donc, j'imagine que ce sera le cas. Très hâte d'y être, mais beaucoup d'appréhension aussi. Donc, je sais que le jour J, ça ira beaucoup mieux, mais l'attente est longue.
Kevin Mayer, joint pour Europe 1 par Corinne Boulou.
On finit par le Vendée Globe.
Statu quo à l'avant, Yannick Bestaven devant Charlie Dalin, Thomas Ruyant, des hommes de tête entrés dans l'océan Pacifique après avoir franchi l'Australie.
Jérôme Lécroix, chaque matin pour les sports, merci.
C'était le journal des sports. Toute l'actu pour bien parier est sur Europe 1 avec Winamax. Winamax, les meilleures cotes. Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
Europe 1.
Les géants d'Airbus parcourent les airs depuis 50 ans maintenant. Hommage ce matin à ce fleuron européen avec un invité totalement inattendu sur ce sujet. Bonjour à vous.
Bonjour, c'est Alain Bernard.
Bonjour Alain Bernard. Alors oui, c'est bien le nageur Alain Bernard, le double champion olympique qui est avec nous pour parler d'Airbus. Parce qu'on vous découvre Alain Bernard, passionné d'aviation. Vous pilotez d'ailleurs vous-même. Et vous allez nous raconter dans un instant. A tout de suite sur Europe 1, 6h14.
Sébastien Krebs sur Europe 1.
6h16, mon invité inattendu est un ancien nageur professionnel, un double champion olympique pour parler d'aviation. Oui, c'est particulièrement inattendu ce matin à l'occasion de ses 50 ans d'Airbus. C'est Alain Bernard qui est avec nous. Alain Bernard, dites-nous donc d'où vous vient cette passion pour l'aviation ?
Alors, c'est une passion que j'ai quand même depuis tout petit. Je rêvais de piloter depuis le plus jeune âge, à partir d'un jour où mes parents m'ont emmené sur un meeting aérien où j'ai eu la chance de voir évoluer la patrouille de France. Et puis, dans ma ville de natale, en fait, à Aubagne, côté de Marseille, dans les Bouches-du-Rhône, il y a le premier régiment étranger de la Légion étrangère. Et donc, chaque 1er mai, la patrouille de France faisait un défilé au-dessus de la Légion. Donc, en fait, j'ai rapidement associé cela à ma journée d'anniversaire et c'est resté comme ça, cette passion est née à ce moment-là, a grandi et petit à petit, je me suis de plus en plus intéressé là-dedans en passant mon brevet de pilote, notamment il y a 10 ans maintenant.
Quel type d'appareil vous pilotez ?
Oh, c'est un appareil monomoteur, c'est un Dynamo Star DA40 en fait dans l'aéroclub dans lequel j'ai été formé à Cannes-Mandelieu. J'ai la chance d'habiter à 15-20 minutes de l'aérodrome et c'est vraiment mon échappatoire, ma passion que j'aime partager avec ma famille, avec des amis pour les emmener en vol de temps en temps.
Vous faites aussi des trajets, des petits voyages, jusqu'où vous êtes déjà allé ?
Oh, je suis pas allé bien loin, mais j'ai eu la chance de parrainer le Raid Latéco Air il y a quelques années. Donc, on a été jusqu'à Essaouira, en fait, sur les routes de l'aéropostale.
Au Maroc.
Et mais sinon, à titre vraiment privé, je suis allé en Corse, à Avignon et dans les Hautes-Alpes, où on a une maison de famille à côté de Gap Talar. C'est mon petit secteur sud-est, on va dire, voilà.
D'ailleurs, alors si on regarde votre site internet personnel, on ne vous voit plus du tout au bord d'une piscine, mais à côté d'un avion. Ça veut dire qu'aujourd'hui, finalement, l'avion prend plus de place que la natation dans votre vie d'aujourd'hui.
C'est sûr que l'avion prend beaucoup plus de place qu'auparavant, parce que j'ai beaucoup plus de temps d'assouvir cette passion. Et puis j'ai eu la chance, de par mes résultats et ces résultats en compétition et cette notoriété que j'ai eue, de pouvoir sympathiser avec des pilotes de l'armée de l'air. Et c'est juste extraordinaire, parce que j'aurais vraiment aimé devenir un pilote de chasse, en fait, à l'âge de 15-16 ans. Et puis j'ai vraiment opté pour le sport, parce que ce n'était pas compatible avec le rythme d'entraînement. Mais malgré tout, j'arrive à assouvir cette passion en participant à des meetings aériens et à échanger avec des pilotes ces ambassadeurs de l'armée de l'air, que ce soit la Patrouille de France, le Rafale ou même la
Vous avez embarqué avec eux, avec la Patrouille de France. Embarquée.
Voilà, oui, j'ai eu la chance de paxer sur des appareils extraordinaires avec la Patrouille de France, en Rafale, en Canadair. Et puis très récemment, il y a un an, j'ai pu assister à 4 jours d'opération sur le porte-avions Charles de Gaulle. Donc vraiment en immersion, ça c'est juste extraordinaire de voir cette technicité, en fait, que cela demande, que ce soit des avions de ligne, que ce soit des avions de chasse. Il y a une vraie spécificité dans chacun de ces métiers.
Un mot, si on revient à Airbus, donc qui célèbre aujourd'hui ses 50 ans, vous appréciez aussi ces géants des airs, les voyages long courrier?
Oui, court courrier, moyen, long courrier. C'est vrai que Airbus, c'est vraiment la fierté aussi de notre France, et c'est cet héritage aéronautique que l'on a eu grâce à des Guinmer, Mermoz, la Teco Air, Saint-Exupéry. Vraiment, c'est pionnier de l'aviation. On est le deuxième pays au monde en termes d'activité aéronautique derrière les États-Unis. On a la chance d'avoir le territoire parsemé de terrains d'aviation qui soient plus ou moins grands. Et c'est vrai qu'Airbus a une place prépondérante dans notre société aujourd'hui, parce que ce sont les leaders du transport commercial. Et néanmoins, il y a toujours des prospects, des savoir-faire, des techniques qui sont en cours de recherche et de développement, qui ont fait justement d'Airbus des leaders du marché, avec les derniers nés, le 350, le 380 malheureusement qui est arrêté de production, mais voilà, c'est une immense fierté. Alors même si ce n'est pas une période propice à la fête ou à la commémoration, je pense que c'est très important de le célébrer comme il se doit, parce que 50 ans d'Airbus, ça me prouve aussi que ça s'inscrit dans le temps pour satisfaire les usagers, les clients dont je fais partie.
Merci Alain Bernard. Alain Bernard, double champion olympique de natation ce matin sur Europe 1. Merci d'avoir partagé avec nous cette passion pour l'aviation. À bientôt sur Europe 1.
Merci à vous. Merci.
Europe 1, Sébastien Krebs.
Il est 6h21, Emmanuel Macron désormais confiné dans sa résidence de la Lanterne à Versailles. Le chef de l'État testé positif au Covid hier. De nombreux dirigeants français et européens sont contraints à leur tour de s'isoler. Le Covid qui a déjà fait 3 fois plus de morts à l'hôpital que la grippe saisonnière, selon une étude révélée ce matin. La réclusion criminelle à perpétuité pour l'auteur de l'attentat manqué du Thalys Amsterdam-Paris en 2015. Ayoub Al-Kazani avait failli commettre un massacre à bord du train. Et puis Huawei va installer sa première usine hors de Chine. En France, dans l'est de la France, à Brumath, au nord de Strasbourg. 300 emplois à la clé.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
C'est Noël dans quelques jours et c'est vendredi. On avait envie de terminer la semaine avec ce tube planétaire de Mariah Carey. L'histoire derrière ce tube, c'est la partition d'Omblin. À ce matin, à tout de suite.
Europe 1.
6h25 sur Europe 1, c'est l'heure de la partition d'Omblin Rush, une partition consacrée à Noël ce matin, chaque année. C'est la même chanson, Omblin, et Noël ne serait pas vraiment Noël sans Mariah Carey. Avant de retrouver les clochettes, on retourne donc en 1993. Mariah Carey a seulement 3 ans de carrière derrière elle.
3 ans de succès, ponctués par 3 albums et 2 récompenses musicales américaines. Selon ses producteurs, c'est donc le bon moment pour la chanteuse d'enregistrer un album de Noël.
Grand classique pour les chanteurs et chanteuses
américain. Maria Carey n'est pas de cet avis.
Eh ben non, elle se trouve trop jeune, elle a 23 ans, elle estime que le genre est un peu désuet aussi. Elle sait surtout que ce format n'est pas destiné aux ados, sa cible principale. Et puis finalement, Maria Carey se laisse convaincre.
Nous sommes en juin 1994 et la voilà qui s'installe dans une maison louée dans les Hamptons, près de New York.
Un petit coin de paradis et de calme où elle retrouve le compositeur Walter Afanassiev qui lui a déjà offert la chanson « Hero ». Et pour que l'esprit de Noël vienne malgré la chaleur estivale, Maria Carey remplit la pièce de guirlandes et de décorations de Noël.
Lorsqu'ils s'installent tous les deux au piano, Maria Carey est inspirée par la mélodie qu'elle entend.
Et elle se met à chanter. Dubitatif, le compositeur l'arrête et lui dit... On dirait que quelqu'un fait des vocalises. Tu es sûr que c'est ce que tu veux ? I don't want a lot for Christmas. There is just one thing I need. I don't care about the presents underneath the Christmas tree.
La session de travail se poursuit. La mélodie jouée au piano est un peu rock d'ailleurs et les paroles lui viennent naturellement.
15 minutes suffisent à Maria Carey pour écrire la chanson. Walter Afanassiev emporte en Californie la maquette pour faire enregistrer la bande-son par un orchestre. C'est une catastrophe. Personne, dit-il, ne réussit à capturer l'essence même de la chanson. Il finit donc par s'occuper de l'intégralité de la production tout seul, avec les cloches, les carillons, le xylophone, la magie opère. Et ce mélange de pop et de chant traditionnel fait « All I Want for Christmas », un succès indémodable.
Ça y est, vous l'avez dans la tête ou pas ? Est-ce qu'on la laisse encore un peu ou bien ?
On dit merci à qui ?
Une chanson écrite en 15 minutes. Alors ça, on l'apprend ce matin.
Et un chiffre,
combien cette chanson a rapporté à Maria Carey ?
60 millions de dollars.
60 millions
en 26
de
ans d'existence. Et pour la première fois, elle est numéro 1 en Angleterre, figurez-vous, ce Noël, devant Last Christmas, chanté par George Michael, par Wham, bien sûr.
Elle passe devant George Michael. Alors numéro 1 aux États-Unis, ça c'est absolument tous les ans. Et c'est encore le cas cette année. La partition avec Omblin Roche. Merci Omblin.
Merci.
Bon week-end. Et on retrouve Laurent Cabrol pour la météo.
Bon week-end, Omblin. Bon, bah, écoutez, je vous souhaite à tous, chers amis, de passer un bon week-end aussi, dans la mesure où aujourd'hui sera une journée calme. Il faut en profiter parce que demain et après-demain, ce sera quand même un petit peu plus difficile. Nous aurons un front pluvieux qui va traverser la France. Il va traverser la France demain samedi. Il va mourir dans les régions de l'Est dimanche. Donc demain sera quand même la journée la moins agréable du congé de fin de semaine. Et puis vous allez pouvoir, disons, en profiter quand même d'un brin, pas mal de soleil durant la journée de dimanche. Donc aujourd'hui, peu de choses à dire. Le temps est calme. Nous avons sur le Finistère des premières pluies qui vont gagner les côtes de la Manche, mais en s'estompant au fil des heures. Et nous avons des pluies sur la zone des pluies cévenoles que nous connaissons maintenant, l'Hérault, le Gard, la Drôme. Des pluies qui vont se manifester tout au long de la journée sous des températures maximales pour la France, entre 11 et 16 degrés.
Merci Laurent, à tout à l'heure.
Europe Matin, le 5-7. Sébastien Krebs.
Toute l'information de ce vendredi 18 décembre, tout de suite avec vous François Geffrier. Bonjour.
Bonjour Sébastien, bonjour à tous.
Votre journal, il est 6h30.
À un moment donné, c'est des emplois, on les veut pas, on en a besoin. Ce ne sont pas, c'est pas un débarquement de Chinois totalement inconnu.
L'arrivée d'une usine Huawei près de Strasbourg, plutôt bien vue par les Alsaciens. Le géant chinois, dont les technologies sont bannies des réseaux 5G français, va créer 300 emplois près de Strasbourg. Emmanuel Macron contaminé, on le sait depuis hier matin, mais qui a-t-il contaminé lui-même ? La liste des dirigeants qui se sont mis à l'isolement est assez longue, vous verrez. Et puis quelques notes de musique d'un ancien des Beatles, Paul McCartney, n'a n'a pas perdu le sens du rythme, ni du timing marketing d'ailleurs, avec un nouvel album qui sort 6 jours avant Noël.
L'Élysée promet la transparence sur l'état de santé d'Emmanuel Macron, mais est-elle vraiment possible? La santé des présidents, tabou français, nous dira mon invité Denis de Montpion, auteur d'une enquête sur le sujet. Il est avec nous dans 10 minutes. À suivre aussi l'innovation d'Anis Mbida et votre revue de presse internationale. Bon réveil à tous.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Synonyme de controverse sur du potentiel espionnage, mais aussi pour son rôle dans l'exploitation de la minorité ouïghour, le géant chinois des technologies Huawei va construire une usine à Brumath, dans le Bas-Rhin. Ce sera son tout premier site en dehors de Chine.
300 emplois dans un premier temps, 200 millions d'euros d'investissement, de belles remontées fiscales aussi pour les collectivités, et l'aspect polémique de la chose qui n'inquiète pas forcément la population. Arthur Nbaché.
Et alors, voilà, en résumé, l'état d'esprit des habitants. Le controversé géant chinois Huawei, promoteur de la controversée 5G, débarque à Brumath. Et alors, il y a 300 emplois à la clé.
Moi, je suis directrice dans un hôtel, donc ça peut me ramener effectivement beaucoup de taux d'occupation, de restauration pour les formules déjeuner le midi.
Et toute la dimension, j'allais dire, polémique de Huawei, les Chinois, la 5G ?
Oh, pas du tout. De toute manière, ce sera le progrès. Il ne faut jamais se rebuffer contre le progrès. Ce n'est pas nécessaire, c'est dommage, quoi.
Bon, après, il y a... est-ce que les Chinois vont avoir l'empire sur le monde, quoi, hein ? C'est ça, le risque, quoi. Mais bon... C'est pas à cause de cette usine sur Brumath que ça va chavirer, quoi.
Claude Sturny préside l'agglomération de Haguenau. Il a piloté la candidature de Brumath.
Je suis pas prêt à en faire une question politique. On discute pas le bien fondé de l'implantation d'une usine d'armement ou d'une usine alimentaire ou d'une usine à un moment donné. C'est des emplois, on les veut pas, on en a besoin. C'est pas un débarquement chinois totalement inconnu.
Si tout se passe comme prévu, lancement de l'usine Huawei de Brumath en 2023.
On en vient à l'autre grand titre ce matin. Emmanuel Macron est donc positif au Covid. Le chef de l'État s'est isolé dans sa résidence de la Lanterne à Versailles. Sa quarantaine pose forcément la question de l'organisation du pouvoir.
Et du calendrier aussi, car plusieurs responsables politiques nationaux, mais aussi européens, ont vu le président français ces derniers jours. Jean-Jacques Héry.
On dit que le pouvoir isole. Avec le Covid, c'est encore plus vrai. Testé positif, Emmanuel Macron devra télétravailler pendant 7 jours. Et comme un château de cartes qui s'effondre, tout le sommet de l'État devra limiter. À commencer par le Premier ministre Jean Castex, cas contact, reconfinement pour l'ex-monsieur des confinements. Ensuite, il y a ces deux repas qui posent question. Un déjeuner mardi midi d'abord, lors duquel Emmanuel Macron a reçu les présidents de groupe de l'Assemblée. Et puis mercredi soir, un dîner dans la salle des fêtes de l'Élysée. Au moins 10 convives. François Bayrou et Christophe Castaner notamment étaient là. Parmi les participants, Richard Ferrand, le président de l'Assemblée nationale, a annoncé qu'il allait s'isoler. Mais l'onde de contagion potentielle est internationale, car c'est peut-être à Bruxelles la semaine dernière qu'Emmanuel Macron a été contaminé à l'occasion d'un sommet européen. Xavier Bettel, le chef du gouvernement luxembourgeois, s'est ainsi déjà mis en quarantaine. Même précaution pour le président du Conseil européen, Charles Michel, ou encore le premier ministre espagnol, Pedro Sanchez. Cette semaine, les deux ont déjeuné avec le président français. Or, hier, le rapport sanitaire de l'épidémiologiste Arnaud Fontanet rappelait que ce sont avant tout les repas qui jouent un rôle central dans les contaminations.
Alors quel est le dispositif qui entoure le président de la République? Son état de santé est-il le secret le mieux gardé de la République? On va en parler juste après le journal avec mon invité Denis de Montpion.
À propos du Covid, y aurait-il plus de morts qu'on ne le pense jusqu'à présent? Une étude menée par des chercheurs de l'université de Lille indique qu'entre 6 et 7 000 morts du Covid ne sont pas comptabilisées dans les statistiques officielles.
Explication, il s'agit d'une évaluation de la mortalité à domicile à la suite d'un arrêt cardiaque consécutif au Covid. Lionel Gougelot.
Président du registre national des arrêts cardiaques, Hervé Hubert et son équipe ont d'abord été alertés lors de la première vague de l'épidémie par des équipes de SAMU.
Une remontée de terrain très forte des urgentistes qui nous disaient tous les jours, on récupère des patients en arrêt cardiaque consécutif à la Covid-19.
Et l'étude épidémiologique et statistique qu'ils ont lancée a permis de montrer qu'un certain nombre de morts à domicile par arrêt cardiaque avaient été en fait provoquées par la Covid.
Ces patients qui ont fait un arrêt cardiaque, globalement, c'est un arrêt cardiaque consécutif à la Covid-19. D'ailleurs, très clairement, ces patients avaient comme caractéristique des causes respiratoires qui ont entraîné l'arrêt cardiaque.
Le problème, c'est que ces décès n'ont pas été inclus dans les statistiques de mortalité du coronavirus, alors qu'ils représentent plus de 12% du bilan des décès officiellement recensés dans les hôpitaux et les EHPAD.
Ce chiffre, globalement, c'est une constante. Il faudrait, à l'heure actuelle, réfléchir à une actualisation des données nationales en ajoutant entre 6 et 7 000 morts, puisque ce sont les résultats que l'on obtient par le biais de notre étude.
Une mortalité qui, selon le chercheur, serait tout aussi sous-évaluée dans les autres pays européens. Lille, Lionel Gougelot, Europe 1.
Dans l'actualité du jeu vidéo, on vous a parlé il y a quelques jours, quelques semaines, de Cyberpunk 2077, un jeu qui nous emmène dans un monde chaotique. Il est un peu trop, sans doute, les très nombreux bugs qui ont été signalés conduisent la plateforme Sony à retirer le jeu de son catalogue en ligne et même à offrir un remboursement aux joueurs. Et puis on a entendu Mariah Carey il y a quelques minutes. Voici une autre légende, sa guitare, une batterie et la voix de Paul McCartney. Lavatrilil, un titre qui sort aujourd'hui d'un monsieur qui n'a pas pris une ride musicalement.
Et Paul McCartney, 78 ans, sort son 18e album solo, ça s'appelle McCartney 3. On écoute un extrait.
La chanson « Seize the Day » issue de ce nouvel album de l'ancien des Beatles. Alors celui-ci s'inscrit dans la continuité de McCartney 2 et McCartney tout court, hein, il faut suivre, des albums qui ont respectivement 40 et 50 ans. Ça vous rajeunit ?
Non.
Vous n'étiez pas né, on peut
mais
le dire.
Voilà, exactement. 6h37 sur Europe 1. Merci François Geffrier pour le journal de 6h30.
Europe 1.
Et j'accueille l'invité de ce 5-7, Denis de Montpion, qui s'installe dans ce studio. Merci d'être avec nous en direct. Vous êtes éditorialiste politique, vous avez enquêté sur le secret qui entoure la santé des présidents, sujet extrêmement sensible, on le sait. Vous parlez dans votre livre de Dernier tabou de la République et c'est intéressant d'avoir ce matin votre regard sur l'annonce de la contamination d'Emmanuel Macron. On en parle dans quelques secondes. A tout de suite sur Europe 1.
Sébastien Krebs sur Europe 1.
Il est 7h20 sur Europe 1 et l'invité du 5-7 dans ce studio est ce matin Denis de Montpion, auteur de Dernier tabou, révélation sur la santé des présidents, paru aux éditions Pygmalion. Denis de Montpion, Emmanuel Macron est donc positif au Covid. Quel regard vous portez sur la façon dont cela a été communiqué hier ?
Bon, écoutez, le président de la République a plutôt... comment dirais-je, contrairement à ses prédécesseurs, jouer franc jeu. D'ailleurs, c'était difficile pour lui de faire autrement, étant donné cette maladie inédite, contagieuse, parce que ses prédécesseurs ont eu des ennuis de santé, certains très graves, mais qui n'étaient pas contagieux. Donc, c'était beaucoup plus facile de dissimuler la réalité de la chose. Là, le fait qu'il y ait eu cette réunion à Bruxelles avec tous les chefs d'État et chefs de gouvernement... il ne pouvait pas, évidemment, faire comme si de rien n'était. Quoi.
Mais on va jusqu'à connaître des détails sur ces symptômes qui sont communiqués hier par le porte-parole du gouvernement. On sait qu'il tousse, qu'il a un peu de fièvre, état grippal, sans gravité. Voilà ce que nous disent.
Oui, parce que dans cette maladie, c'est bien qu'il y a une échelle de gravité, puisque on se souvient que le Premier ministre britannique Boris Johnson avait dû être hospitalisé. Il avait commencé par forfanterie à dire que voilà, ça passerait, etc.
Mais on ne dit jamais que c'est grave, de toute façon.
Non, mais dans cette maladie, vous savez, il y a ce fameux cap des 9 jours, où au 9e jour, on voit si le patient a récupéré, a repris du poil de la bête ou pas. Là, il semble, aux premiers symptômes, que Emmanuel Macron soit atteint de manière bénigne de ce Covid.
Alors, on l'a vu à la télévision, à l'image, c'est aussi une forme de communication.
Il a pour lui d'être jeune, on sait que ça touche quand même principalement les personnes âgées, les gens atteints de comorbidité. Bon, il ne semble pas que ce soit son cas. On l'a vu précédemment dans ses déplacements. C'est quand même quelqu'un de très énergique, qui a l'air en bonne santé. Et d'ailleurs, vous pouvez remarquer que depuis son quinquennat, jamais il a publié de bulletin de santé. D'ailleurs, ça n'a même pas été une question avec lui. Alors que avec Jacques Chirac, avec même Nicolas Sarkozy, ça avait été un problème qui faisait partie de la campagne électorale.
Ça n'a pas été une question, ça n'a jamais été réclamé parce que le président n'avait pas 40 ans quand il a été élu.
Exactement,
aussi.
Voilà.
Mais ça veut dire que ça reste quand même un tabou aujourd'hui ?
Ça reste un tabou, oui, puisque, là, compte tenu de cette maladie virale très particulière, c'est difficile de ne pas... publier. D'ailleurs, c'est pas véritablement des bulletins de santé qui sont publiés, ce sont des communiqués de l'Élysée ou des déclarations.
Il n'y a pas la signature d'un médecin au bas du communiqué.
Voilà. Ce qui était le cas, par exemple, mais enfin bon, on avait vu qu'avec François Mitterrand, les bulletins de santé étaient tous trompeurs. Ça avait été pareil avec Jacques Chirac quand il avait fait son AVC. Et donc, je crois que les Français sont un peu échaudés sur la sincérité des chefs d'État à leur dire véritablement la gravité de leur... de la maladie qui les touche.
C'est un tabou très français, Denis de Montpion, ou c'est pareil à l'étranger ?
Alors écoutez, non, aux États-Unis, il y a une chose qui est beaucoup plus simple, en réalité, puisqu'elle est prévue dans la Constitution. Quand un président de la République, pour des raisons médicales, est empêché, on l'avait vu avec Ronald Reagan en 81, quand il avait été victime d'un attentat, il avait dû être hospitalisé et donc subir une anesthésie générale. Donc, il était empêché dans sa fonction. Que s'était-il passé ? Et ça, c'est la Constitution américaine qui le prévoit, c'est que le vice-président, automatiquement, est en charge des affaires du pays. En France, il n'y a pas de dispositif, il y a un vide juridique complet. Et donc, si...
En France, c'est le président du Sénat, mais uniquement en cas de décès.
Uniquement en cas de décès. Imaginons, par exemple, que le Covid qui atteint Emmanuel Macron aujourd'hui soit beaucoup plus grave et que demain, il soit, ce que personne ne lui souhaite, amené à être en réanimation. Ça poserait un problème, puisque évidemment, on ferait comme du temps de François Mitterrand ou Georges Pompidou, ce serait le secrétaire général de l'Élysée ou le Premier ministre qui gérerait les affaires courantes.
Mais il n'y a rien de légal, il n'y a rien d'inscrit dans la Constitution.
Alors il y a eu
en
France une tentative de combler ce vide juridique. Il y avait après la mort de François Mitterrand, eh bien, il y avait des experts médicaux, il y avait des juristes aussi, constitutionnalistes, qui avaient réfléchi à un moyen de réduire ce vide. Et malheureusement, Jacques Chirac, le successeur de François Mitterrand, avait écouté ces spécialistes. Et il avait confié ça à Claude Guéant, qui était à l'époque secrétaire général de l'Élysée, et puis le dossier a été enterré.
Alors, on n'en est pas du tout au stade où Emmanuel Macron serait empêché de faire son travail, puisqu'on l'a vu en visioconférence hier, on a aussi cette image-là. On voit qu'il est en état de s'exprimer et de mener des réunions. Quel est le dispositif qui l'entoure aujourd'hui? Et plus généralement, qu'est-ce qui entoure le président pour que rien ne fuite?
C'est-à-dire que de toute façon, il est dans les mains des médecins militaires de l'Élysée qui sont en permanence, qui sont détachés à l'Élysée. Et comment c'est la grande meute, ne s'appelle pas la grande meute pour rien. Donc, c'est une communication...
C'est du secret défense ?
À minima, qui évidemment, le staff du président de la République contrôle et... Connaissant un peu Emmanuel Macron, on peut imaginer qu'il a plutôt tendance à essayer de jouer carte sur table.
Merci Denis de Montpion d'être venu nous donner cet éclairage ce matin sur Europe 1. Je rappelle le titre de votre livre « Dernier tabou, révélation sur la santé des présidents ». C'est aux éditions du Pygmalion, vous l'avez publié en 2012 ce livre. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Bonne journée à vous.
Europe 1.
6h46, l'innovation d'Anissa Mbida à suivre.
Europe 1, Sébastien Krebs.
6h48 sur Europe 1. Bonjour Anissa Mbida.
Bonjour Sébastien Krebs.
Votre innovation du jour va intéresser tous ceux qui nous écoutent comme ça le matin en faisant leur jogging. Je sais qu'il y en a. Une nouvelle génération de bracelets et de montres connectées arrive et ils vont pouvoir décortiquer nos moindres mouvements et se transformer en véritable coach sportif.
Oui, on est loin du temps des petits gadgets qui se contentaient de compter nos pas. Aujourd'hui, les bracelets les plus perfectionnés détectent déjà vaguement quand on se met à courir, à faire du vélo ou à nager. Eh bien, demain, ils pourront en plus entrer dans les moindres détails. On vous dira par exemple, vous avez nagé 426 mètres en crawl et 222 à la brasse.
Ah oui, à ce point.
Vous avez soulevé des haltères 38 fois au-dessus de votre tête. Il pourra même vous corriger. Attention, vous ne descendez pas assez bas quand vous faites des pompes. Donc, ce sera beaucoup plus précis, beaucoup plus utile pour s'améliorer. Et vous l'avez dit, ça pourrait carrément remplacer un coach.
Ah oui, là, c'est carrément un mouchard. Comment il fait pour avoir toutes ces informations s'il y a des nouveaux capteurs partout ?
Non, pas forcément. Ce sont toujours des gyroscopes, des GPS, des capteurs de mouvement qui donnent la position dans l'espace. Ce qui change, c'est plutôt leur miniaturisation et surtout la qualité d'interprétation de ces informations. On commence à à s'appuyer sur l'intelligence artificielle pour déduire la position du squelette dans l'espace et reconnaître des exercices extrêmement précis comme, je sais pas moi, jumping jack. Vous savez, quand on saute sur place en écartant les bras et les jambes. Et tout ça uniquement à partir des mouvements d'un bracelet. Et comme les capteurs sont de plus en plus petits, eh bien, on en met désormais dans les vêtements. Il y a la start-up Wearable X, par exemple, qui propose un pantalon de yoga, qui va vibrer là, sur la cheville, sur le genou, au niveau de la hanche, pour aider à corriger sa posture. Parce que c'est vrai, hein, quand on fait du sport à la maison, on a rarement la chance d'avoir un coach qui s'assure qu'on fait les bons mouvements.
Voilà, ce n'est plus seulement donc des bracelets connectés, mais même des vêtements de sport connectés avec des capteurs qui nous corrige et qui nous force à descendre suffisamment bas pour faire des pompes. Ils vont nous faire mal, ces capteurs. Merci, Anis Hamid. 7h10. Et nous ouvrons votre revue de presse internationale avec les correspondants d'Europe 1 partout dans le monde. On commence en Espagne ce matin. Bonjour, Henri Laguérie.
Bonjour, Sébastien.
Qu'est-ce qui fait la une chez vous?
Eh bien, c'est une loi qualifiée ici d'historique, votée hier au Parlement, qui autorise désormais l'euthanasie. L'Espagne devient le 7e pays au monde à légaliser cette pratique, explique El País. Le pays rejoint notamment la Belgique, les Pays-Bas ou la Suisse. Le recours à l'euthanasie, plébiscité par une large majorité de la population, sera très encadré et possible en cas de maladie grave ou incurable, poursuit le journal. La demande du patient devra être validée par deux médecins différents, puis passera devant une commission d'évaluation. La loi a été votée par l'ensemble des forces de gauche, précise El Mundo, mais aussi par les centristes. C'est une grande avancée pour notre pays et pour la liberté, s'est félicité sur Twitter le chef du gouvernement, Pedro Sanchez. La droite et l'extrême droite ont voté contre. Il s'agit de la destruction de notre culture à quelques jours seulement du jour où l'on célèbre la naissance du Fils de Dieu, a lancé à la tribune la porte-parole de Vox.
Henri de Laguérie en Espagne pour Europe 1, direction le Brésil. À présent, bonjour Marine Audacher.
Bonjour Sébastien.
De quoi parle-t-on là-bas dans les journaux ?
Du plan de vaccination présenté par le gouvernement brésilien cette semaine, Bolsonaro ne va pas inciter les Brésiliens à se vacciner car il est contre l'obligation du vaccin, rappelle la Folha de São Paulo. Je ne me ferai pas vacciner, mais ceux qui le souhaitent qu'ils se vaccinent. Si ma vie est en danger, c'est mon problème. Point final, a lancé le président à un journaliste de la télévision Bandeirantes, un président contaminé en juillet mais toujours coronasceptique, qui a présenté son plan de vaccination sans masque. Alors l'ensemble de la presse reproche à ce document de 110 pages de ne pas établir de chronologie précise et de se contenter d'évoquer le premier trimestre 2021. Il n'y a aucune mention du nombre de personnes prioritaires ni de combien de doses seraient nécessaires, alerte la Folha de São Paulo, alors que le Brésil est le deuxième pays le plus meurtri au monde par le coronavirus et se rapproche des 200 000 morts officiels.
Marine Audacher au Brésil, et on va terminer cette revue de presse internationale en Russie. Bonjour Elena.
Bonjour Sébastien.
Qu'est-ce qui occupe les médias à Moscou ?
Eh bien, c'est la décision d'exclure la Russie pour 2 ans des grandes compétitions sportives internationales suite au scandale du dopage dans le sport russe. Un semblant de victoire pour la Russie, dit le quotidien Commerçante, puisque le tribunal arbitral du sport de Lausanne a statué en faveur de la Russie en allégeant des sanctions initialement prévues pour 4 ans par l'Agence mondiale antidopage. Il n'en reste pas moins qu'elles couvriront 2 Jeux olympiques, rappelle le quotidien Izvestia, Jeux olympiques lors desquels les sportifs russes qui n'ont jamais été convaincus de dopage pourront concourir, mais sous bannière neutre. Un autre sanctionné, Vladimir Poutine, relève quant à lui le journal Moskovski Komsomolets. Le président russe sera interdit de se rendre aux Jeux Olympiques au même titre que tous ses ministres et les membres de son administration.
Marine Audacher, Elena Voloshin à Moscou pour Europe 1. Nous étions à Moscou, à Sao Paulo et à Barcelone avec nos correspondants aujourd'hui pour votre revue de presse internationale.
Europe 1.
Emmanuel Macron s'est donc installé à la lanterne sous haute surveillance médicale. C'est à la une du 7-9 de Mathieu Béliard qui s'installe. A tout de suite sur Europe 1, 6h54. 6h57, très belle journée à vous tous. Mathieu, vous l'avez vous aussi dans la tête, Maria Carré?
À cause de qui?
Ah bah il est toujours là. Voilà.
Ah il est fort ce Mathieu Carré. J'avais prévu de vous chambrer.
Ah
fait,
mais vous aussi que... encore vous,
non, mais, les portes
parce que nous ça y est, on l'a dans la tête depuis 5h ce matin.
Ce studio n'est pas si bien sonorisé. Sachez que pendant le 5-7, j'ai dû l'entendre au moins 3 fois. Hein, vous avez joué avec Maria Carré, avec cette ambiance de Noël.
Et on a raconté les coulisses avec Omblin surtout.
Comment ne pas vous comprendre, évidemment. On est à une semaine de Noël, merci Sébastien.
Allez, c'est à vous.
Très
bon week-end.
Week-end à vous. Sur Europe 1, vous écoutez Le Monde Changer maintenant.
Le 5-7.
Sébastien Krebs.
Écoutez le monde changer.